Bon, je sais ce que vous allez vous dire. Le mec revient 7 mois plus tard, il est toujours vivant déjà, il nous a abandonnés, on pensait vraiment qu'il était mort. Tout ça pour revenir et nous faire un discours bien larmoyant en introduction comme l'année dernière, comme ça on passe l'éponge et on passe à autre chose. Eh bien tout d'abord, sachez que oui, c'est ce que je vais faire, oui. Désolé, mais j'ai pas envie de vous faire chier trop longtemps avec ça non plus parce que ça parle de moi, alors qu'ici on est censé parler de cinéma, donc qu'est-ce qu'on en a bien à foutre, vous allez me dire. Cette année a été faite de haut et de bas, comme tout le monde, vous allez me dire, mais personnellement ça a été des bas qui m'ont emmené très très bas, pas jusqu'en dépression, rassurez-vous, mais vraiment des trucs que je souhaite pas à grand monde. J'avais le moral à zéro et j'avais qu'une seule envie, c'était d'occuper mon esprit tout le temps où j'étais éveillé. C'est-à-dire soit bosser, et je peux vous dire qu'en enchaînant deux boulots de janvier à juin sans s'arrêter de bosser pour autant après, bah ça prend du temps déjà. Et ça fatigue de ouf. Comme certains le savent, j'ai bossé en radio en plus cette année. Je bosse encore actuellement pour un journal dans lequel j'écris des articles, donc en plus de mon autre travail, qui se déroule avec les enfants pour pas rentrer dans le détail. Vous vous doutez bien que niveau fatigue, c'était assez stratosphérique. Des cernes titanesques. Mais quand je bossais pas, il fallait que j'occupe mon temps autrement. Et ce temps-là, je le passais avec mes proches, amis, collègues. Je sortais les soirs, je voyais les gens la journée. Tout ça pour être occupé H24 et pas avoir à penser à autre chose. Sans parler des recherches de stage et autres, je voulais pas avoir un seul temps libre. Et vous pourriez très bien me dire que j'aurais pu aller me vider la tête au cinéma comme je l'ai toujours fait. Et c'est à ce moment-là que la grosse révélation de ce début d'épisode vient. J'ai eu une longue période où je n'aimais plus regarder des films. Ça m'emmerdait de rester devant un film, ne serait-ce qu'une heure et demie, parce que ça me faisait rien. C'est comme si j'avais perdu goût au cinéma, et pour un mec qui fait des podcasts dessus, c'est un peu embêtant. Parce que ça te donne pas du tout envie de parler de cinéma, ça te donne pas envie d'écrire dessus, ça te donne pas envie de faire du montage dessus, ça te donne pas envie de faire de la com sur tes comptes. Donc forcément, tout ça, c'est un peu tombé à l'abandon. J'en ai parlé à personne de ça, même pas aux gens que j'ai rencontrés grâce à ce podcast, et donc certains doivent le découvrir à l'écoute de ces mots, mais voilà, il y a eu une période où je pensais que j'aimais plus le cinéma. Ça faisait plus de 4 ans que j'étais rentré un peu plus à fond dedans, et là mon esprit voulait juste plus, donc j'ai arrêté quoi. Mais le miracle est survenu. J'ai commencé à aller un peu mieux dans ma vie déjà, j'ai compris certaines choses, accepté d'autres, et quand ton regard sur le monde et sur les gens qui t'entourent change, que ce soit de manière positive ou négative, tu en ressors bonifié je pense. Et là c'est ce qui s'est passé. Je me suis donné un petit coup de pied aux fesses aussi en ayant posé un constat. J'avais pas vu beaucoup de vieux films cette année et j'avais essentiellement regardé des films très médiocres. Ce qui n'aide pas à avoir une bonne vision de l'art. Hein. Quand tu vas dans un musée par exemple, t'as envie de ressortir de là avec des étoiles plein les yeux, t'as envie de ressentir le talent, la beauté, les émotions. Donc je me suis dit qu'il fallait que je consomme peut-être déjà mieux ce que je regardais, mieux choisir mes films. C'est revenu donc petit à petit jusqu'à ce que j'ai un film déclic. Un film qui m'a réellement captivé. Un film qui m'a fait me dire, c'est pour ça que j'aime le cinéma en fait. Ce film, j'en parlerai un peu plus tard dans l'épisode, mais le plus important réside pas dans savoir quel est ce film. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas se forcer à faire des choses, même si on aime ça. Il faut jamais se forcer à faire des choses. Plus tu vas vouloir te forcer, moins tu vas aimer faire cette chose et plus tu vas t'en éloigner. Le cinéma, ça représente beaucoup de choses dans ma vie, et quand vous avez l'impression de ne plus aimer cette chose, on dirait pas, mais c'est assez douloureux parce qu'en définitive, j'avais l'impression de plus rien aimer en fait. Donc oui, il y a eu moins d'épisodes, il y a carrément pas eu d'interview cette année, parce que c'est pareil, les gens qui vous disent oui pour vous ghoster juste derrière, ça motive pas à se bouger. C'est un format que je souhaite remettre en place cette année parce que j'adore donner la parole à des cinéastes, à des gens qui mettent sur pied le cinéma d'hier, d'aujourd'hui et de demain. C'est très dur, mais je m'engage à m'y remettre en 2023. J'aimerais bien aussi réussir à refaire des featuring comme j'avais pu le faire la première année, et sachez déjà qu'il y en a un de prévu pour cette année, ça c'est clair et net, mais j'aimerais faire venir des gens et pourquoi pas créer d'autres concepts. J'aimerais aussi faire des lives, j'en ai fait quelques-uns cette année et c'est un moment d'échange et de partage que j'affectionne particulièrement, donc je pense que cette année il y aura sûrement d'autres lives. J'aimerais bien aussi remettre le principe des stories Insta où je donne mon avis rapidement sur un film, ça c'est un truc qui m'avait pas mal plu et c'est un concept qui vous avait pas mal plu non plus, ça fait beaucoup de plu, qui créait beaucoup d'interactions, donc ça reviendra sûrement dans les prochains jours. J'ai encore une fois beaucoup trop parlé dans cette introduction, mais le gros résumé que je peux faire de ce pavé c'est aimez-vous, aimez les gens autour de vous qui en valent vraiment la peine, ne vous forcez pas à faire les choses, appréciez l'art tel qu'il vous est offert. Puis bordel, soutenez le cinéma français, c'est parti pour le top film de cette année 2022. Let's go! Excellent. Déjà, je vais revenir sur un truc qu'on me demande en permanence vis-à-vis des séries de télé. Faut savoir que j'étais un gros fan à l'ancienne, mais que maintenant, je regarde plus trop. Pour vous dire, j'avais très envie de regarder House of the Dragon, parce que j'avais adoré Game of Thrones, mais je l'ai pas fait parce que, juste pas l'envie, quoi. Donc forcément, je vais pas avoir grand-chose à vous dire à ce niveau-là, même si j'ai regardé 2-3 trucs sympathiques. Déjà, Euphoria est toujours l'une de mes séries préférées de ces dernières années, et la saison 2 est venue appuyer cette idée. Tout y est beau, tout y est magistral. J'ai fait un long thread à l'époque pour parler d'Euphoria, mais je peux que vous recommander le visionnage. le revisionnage, c'est d'utilité publique. Ensuite, je peux parler du flambeau des aventuriers de Chupacabra. Certains trouvaient ça inférieur à la flamme, mais moi, perso, j'ai trouvé ça dans la même lignée avec même quelques moments vraiment mythiques.
Et montrez vos boules. Non, Patrice, remettez votre bermuda, c'est un programme familial, s'il vous plaît.
Ah, je plaisante.
Il y a des enfants qui regardent.
On risque pas de faire du rioulé, nous. Hein. Nous, on va bien rigoler.
Ami Nulos, vous repartez avec peut-être le don le plus précieux que l'on puisse faire à l'homme. Le feu.
Ah, moi, je dirais le Cialis. Ah, je plaisante.
En termes d'humour, Joko est ce qui se fait de mieux actuellement, je pense, et chacune de ses apparitions est un bonbon qu'il faut savourer. Voilà. Sinon, j'ai commencé Marble Hornets depuis toutes ces années hein, où j'avais envie de le voir. J'ai pas fini parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des épisodes cachés que j'avais pas vus, donc je veux tout recommencer depuis le début pour bien tout comprendre, tout dans l'ordre. Mais c'est vrai que c'est vraiment pas mal du tout déjà. Sinon, je vous avais brièvement parlé de la série Mandela Catalog par Alex Kister l'année dernière. C'est une masterclass hein, de l'analog horror comme on l'appelle. C'est une série qui me met sur mes gardes à tout moment et qui me met mal à l'aise, ce que je demande à un programme horrifique. Cette année, la DA a pris une tournure archi intéressante avec plus de narration, un récit plus construit tout en laissant cet aspect un peu brouillon, mystère que je chéris. Pour finir, un autre programme horrifique si je puis dire, c'est la série des Backrooms de Ken Pixels. Beaucoup en ont entendu parler, mais je voulais en toucher deux mots. Niveau design, imagerie, expérience sonore, c'est assez fascinant comme taf. Plus l'histoire évolue, plus j'ai envie d'en savoir plus. Intéressez-vous vraiment à ce contenu parce que c'est pépite. Musicalement parlant, comme tous les ans, je me suis replongé dans les albums de Daft Punk, Damso, Relsan ou encore les Strokes, hein, voilà, on change pas une équipe qui gagne. J'ai écouté des artistes à fond pendant des périodes bien définies comme Supertramp, Stupeflip ou les Smiths. Et il y a aussi de bonnes sorties cette année quand même. Je pense à Stup Forever de Stupeflip, Dawn FM de The Weeknd, L'amour de DC's, même les autres C'est nous de Big Flo et lui, j'ai plutôt bien aimé, Mauvais ordre de l'homme pâle ou encore V de Vald et bien sûr. La Zizi Kaka Mixtape, chef-d'œuvre des temps modernes. Voilà pour le retour sur mon année culturelle et artistique en dehors du cinéma. Rien de bien extravagant, mais maintenant on va pouvoir commencer à parler de ce qui nous intéresse le plus, l'année 2022 en cinéma. Et pour commencer, je pense que cette année encore plus que les autres, il y a eu du très mauvais.
Il était 4h cette nuit à Paris lorsque Vladimir Poutine a pris la parole à la télé russe pour annoncer une opération militaire spéciale en Ukraine.
Le prix du gasoil s'envole. Il a dépassé les 2 euros le litre ce mercredi dans toutes les pompes de La Rochelle et quel que soit l'endroit. La facture est désormais plus salée pour les automobilistes.
On vient de l'apprendre, la mort de Jean-Pierre Pernaut, l'ancien présentateur du JT de TF1, à 13h, est mort à l'hôpital à l'âge de 71 ans.
Il est 20h et vous le voyez, Emmanuel Macron est réélu avec 58% des voix.
Aussi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement.
Un monument du cinéma et du théâtre français s'est éteint ce vendredi, on vient de l'apprendre. Jean-Louis Trintignant est décédé à l'âge de 91 ans.
Alors si on vient sur ce qui s'est passé globalement, le 16 septembre, Marsa Amini meurt en détention 3 jours après avoir été arrêté par la police des mœurs. Le soir même, la colère éclate à Téhéran et dans les rues du pays. Une colère qui tourne à la contestation anti-régime. Manifestation réprimée dans le sang, 83 morts au moins.
Elon Musk a encore créé la surprise. L'homme le plus riche au monde s'est offert pour 41 milliards d'euros son réseau social préféré, Twitter.
À l'instant même, on annonce le décès de la reine d'Angleterre. C'est maintenant tout à fait officiel.
Et ça passe. Et ça passe, et l'Argentine est championne du monde. L'Argentine, championne du monde pour la 3e fois dans son histoire.
Oui, c'était pas la grande joie, en effet, hein. Et notre cher cinéma nous a aussi offert des moments douloureux, longs, parfois éprouvants à vivre. Alors, je vais pas vous cacher que des fois, je l'avais peut-être un peu anticipé, hein. Mais pour d'autres, on est soit sur des déceptions, soit sur des bons gros bides. Enfin, quand je dis gros bides, vous m'avez compris. Et dans la catégorie, j'avais très envie de les mettre dans ce flop, mais ils n'y seront pas. On retrouve notamment, en même temps, Sonic 2, Not Okay, ou encore Super Hero Malgré Lui. Voilà, tous mini-étoiles, hein, mais vous comprenez bien, il fallait un top 5, donc le voici. En cinquième position, on retrouve Dear Evan Hansen de Stephen Chbosky. Sûrement le film le plus immoral de l'année, hein, et 2h10, putain, on vous dérange pas. C'est H24 dans le too much, ça patauge niveau acteur, et surtout, ça tombe dans un sentimentalisme qui fonctionne pas du tout. C'est-à-dire qu'on demande au spectateur de rentrer en empathie avec quelqu'un de foncièrement détestable, hein. Donc des fois ça fonctionne, mais des fois t'as envie de balancer des tartes meringuées à la tronche du protagoniste, donc j'espère sincèrement que Ben Platt aime le citron. En quatrième position, on retrouve Don Juan de Serge Besson. Je crois que ça, c'est honnêtement le film le plus ridicule de l'année. Un nanar au casting alléchant pourtant, parce que bah t'as Rime et Virginie Efira, on est quand même pas sur du plus belle la vitière, hein. Et pourtant, tout sonne faux, tout vise à côté. J'ai passé le film à me marrer et je pense sincèrement que c'est pas le but qui était recherché, tu vois. Faut croire que c'était définitivement pas l'année des comédies musicales après un épisode 2021 vraiment réussi. En troisième position, on retrouve du cobu président d'Elysée Moon. Ah voilà, là on va être sur du classique sur les trois premières places. que dire? Pourquoi on a confié une caméra et l'écriture d'un scénario à Elysée Moon? Sincèrement, plus le temps passe et plus je me dis que c'est pas un film mais une succession de sketchs débiles. Les jeunes acteurs sont si mal dirigés, c'est affolant. Et je veux dire, les gags sont vraiment pas drôles et te donnent envie de crier bonne année 2013 à chaque fois qu'il y en a un. Par pitié, arrêtez le massacre et laissez l'école Saint-Potache brûler en paix. En deuxième position, qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu de Philippe de Chauvron? Ben forcément, hein, il y a eu un film cette année de la saga, donc il fallait qu'il soit dans ce flop 5. Je pense pas avoir besoin de trop m'expliquer sur celui-là quand même. Hein. Je me rappelle que j'avais lâché cette phrase qui avait bien fait rire à l'époque. Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu arrive à faire passer le premier volet pour un film antiraciste. Et c'est pas une blague. Tous les curseurs sont poussés encore plus au max, encore plus loin, parce qu'avant on avait juste la famille de Blanc-Bourge qui était raciste, et maintenant c'est juste toutes les familles qui sont toutes racistes entre elles. Je vous épargne de commentaires sur la cinématographie, parce que il y en a pas, mais on a réussi à faire pire cette année. En première position, Arthur Malédiction de Barthélémy Grossman. Oui, forcément, hein. Ça m'a beaucoup vanné sur celui-là dans mes groupes de potes, mais c'est une aberration, quoi. J'avais fait un long thread pour revenir sur tous les problèmes du film à l'époque, et je pense sincèrement que c'est l'un des pires trucs que j'ai jamais vu de ma vie en termes de cohérence scénaristique, d'ambition cinématographique, ou encore de performance d'acting. Je vous conseille d'aller relire mon thread Twitter pour ceux que ça intéresse, parce que j'ai la flemme de répéter tout ce que j'ai dit concrètement. Mais dans l'histoire des flops, à côté, 8 rues de l'humanité... C'est cool quoi, c'est cool. Voilà, maintenant qu'on a évacué toute notre frustration de l'année... Ah non, attendez, il me reste quelques noms à citer et après on aura tout évacué. Jurassic World Dominion, Marry Me, Les Secpa, Maigret, Black Adam, Halloween Ends, rien à foutre. Là ok, c'est derrière nous. On peut désormais se concentrer sur tout le positif que nous avons eu cette année, parce que certes il y a eu du négatif, mais on en a aussi eu du très très positif, en rentrant dans le vif du sujet avec mon classement de l'année.
15 de France qui remporte son 10e grand chelem. Les Français se sont imposés 25-13 face aux Anglais lors de ce crunch au stade de France de
Qui va faire parce que Sylvain va garder sa défense. Sylvain qui va défendre.
Allez
Sylvain qui va gagner.
La romancière française Annie Ernaux est devenue ce jeudi la 17e femme à recevoir le Nobel de littérature depuis la création du prix en 1901.
Caroline Garcia, vainqueur du Masters cette nuit au Texas, la française a remporté le tournoi qui réunissait les 8 meilleures joueuses de la saison. C'est la deuxième fois seulement de l'histoire qu'une française remporte ce tournoi, après Mauresmo en 2005.
Ça pourrait être historique et c'est une très bonne nouvelle, le trou dans la couche d'ozone est en train de se résorber.
Le préservatif sera gratuit pour les 18-25 ans à partir de 2023.
Allez, Kylian ! Exceptionnel ! Kylian Mbappé, 92e minute ! Cette finale qui revit ! Cette finale qui bascule peut-être en 3 minutes ! Les Bleus avaient perdu ! Les Bleus avaient dit au revoir à leur Coupe du Monde !
J'ai vu 154 films de cette année 2022. C'est beaucoup, je vous l'accorde. Mais dites-vous qu'en plus de ça, il y a beaucoup de films que j'ai ratés parce que, je vais pas vous expliquer tout le tintouin. Puis manque de temps, d'accessibilité, et des fois, je vais pas vous le cacher, flemme quoi. Flemme, pas envie de m'infliger certains trucs quoi. Donc je fais la liste ici de tous les films que vous ne retrouverez pas dans le top de l'année, en commençant par Morbius, After Chapitre 4, Hellraiser, Falcon Lake, Là où chantent les écrevisses, Avec amour et acharnement, Hôtel Transylvanie 4, Prey, Les Animaux Fantastiques, Les Secrets de Dumbledore, Plancha, Compromat, Rebelle, Varsovie 83, Une Affaire d'État, Unicorn Wars, Ennio, Flea, Annie Colère, Bardo, Fausse Chronique de Quelques Vérités, L'Innocent, Les Amandiers, Mascarade et Leila et ses frères. Oui, concrètement, les deux derniers que j'ai cités étaient deux gros prétendants au top 10, mais malheureusement, pas vu. J'ai tout tenté pour les rattraper en fin d'année, mais j'ai pas pu. Mais même sans ça, établir un classement, c'était quand même trop dur. Il y a peut-être une soixantaine de films que j'ai vraiment apprécié cette année, c'est colossal. Mais il a fallu faire des choix, et comme l'année dernière, j'ai retenu 30 noms. Donc comme d'hab, je vais vous parler de la place 30 à 11, de manière un peu brève, et revenir plus en détail sur les 10 premières positions. Et comme pour l'année dernière, je ne suis pas tout seul pour vous parler des 20 qui finissent aux portes du top 10, et je suis accompagné aujourd'hui d'Hugo du compte Insta Cinémacro et de Thibaut du compte Insta Le Cinéma de Thibaut. Les gars, comment allez-vous?
Ça va super, très hâte de découvrir ce que tu nous as concocté.
Eh bien écoute, ça va vraiment bien, merci pour l'invitation.
Je vais vous expliquer le concept, je vais vous annoncer les films et leurs réalisateurs un par un. Dans un premier temps, je vais juste vous demander de trouver un mot, et bien un seul, pour décrire ce que vous avez pensé du film, pour ensuite donner très brièvement votre avis sur les films. Est-ce que vous avez bien compris votre mission ?
Ouais.
Ça paraît clair.
Eh bien, on va pouvoir commencer, c'est super. Numéro 30, Sans filtre de Ruben Östlund.
Non.
Catastrophe.
Franchement, je pense qu'on a une des pires palmes d'or, peut-être tout court, et en tout cas de ces dernières années, ça c'est sûr. Je trouve la deuxième partie sur le bateau absolument détestable, si ce n'est le passage où Woody Harrelson est là. Sinon, le reste, c'est un grand non. Et je dois admettre qu'entendre des différents avis sur la dernière partie m'a beaucoup fait relativiser mon propre avis, et du coup, j'aime le film encore moins qu'avant.
Alors, moi, je suis plutôt d'accord avec la première partie et la troisième partie, mais effectivement, la deuxième partie, la scène du vomi et de la merde, oh, ça dure, c'est long, c'est épuisant, et des gens sortaient carrément du film pour prendre l'air, justement. Et franchement, c'est très mauvais.
Vous n'avez pas besoin de voir un Titanic scatophile.
Palme d'or à Cannes, c'était évidemment une grosse attente, et pour ma part, j'ai apprécié le moment. Je trouve les deux premiers segments assez brillants, même si le film se perd dans le troisième acte selon moi. On comprend assez facilement les tenants et aboutissants du film, il y a certaines idées de mise en scène que je trouve vraiment cool, et les acteurs sont bons. Charles Biddin aurait vraiment pu flamber si le destin n'avait pas été aussi tragique pour elle. Numéro 29, The Sadness de Robert Javaz.
J'ai le droit à deux mots.
Non, sauf si c'est un mot composé.
Bah tâche.
Original.
Bah on a vu ensemble en plus, on avait vu la reprise de Gérard May à la Cinémathèque.
À la Cinémathèque, tout à fait.
Ça devait être la séance genre de 22h30, un truc comme ça. On venait de faire la Abuela et franchement, voir ça à 22h30 quand tu t'es levé à 7h du mat et que t'as fait une journée de cours complète, j'avoue que c'était... Ouais, non, c'est quand je dis que ça tâche, c'est que ça tâche bien quoi. C'est un des trucs les plus gore que j'ai vu. Le gore est très bien fait et le propos politique est intelligent. Donc voilà, c'est un film très sympathique. Et c'est bien que ce soit sorti en salle.
À moi, c'est du sang, l'originalité, incroyable. Ça ne fait pas partie de mon top, mais ça reste quand même une bonne séance.
Ce film-là, j'avoue, je m'y attendais pas. C'est une totale surprise. Film de zombies complètement barge qui arrive à antagoniser le patriarcat, si je peux grossir le trait. C'est un plaisir de cinéma jouissif avec du gore assez palpable qui met vraiment mal à l'aise. Vrai état de stress devant le film, c'est l'une des pépites horrifiques de ces dernières années. À titre de comparaison, hashtag Alive, production Netflix de 2020 du même type, pêche là où The Sadness s'accomplit. Comme quoi, le cinéma. En 28ème position, Decision to Live de Park Chan-wook.
C'est dur de trouver.
C'est ça un peu.
En un mot, ouais, c'est dur.
Cool.
Bien.
Non, c'est pas le plus grand Park Chan-wook, loin de là, mais ça reste un très bon film. Voilà, après, c'est vrai que si on prend genre Old Boy, ça voilà, pour moi, c'est quand même à des années-lumière, mais ça reste un bon Park Chan-wook, même s'il est peut-être mineur quand même.
Alors voilà, pour moi, c'est vraiment un Park Chan-wook mineur. Mais la mise en scène est formidable, ce qu'on peut sauver du film. J'ai passé un bon moment.
Monsieur Park Chan-wook revient avec un grand film qui m'a fait penser sous de nombreux aspects au In the Mood for Love de Wong Kar-wai. Ne me demandez pas pourquoi, c'est tout. Le cinéma asiatique a cette manière très pure et très gracieuse de présenter l'intimité à son public. Mêlé au jeu de dupes qui s'instaure dans le film, Decision to Live est une véritable œuvre majeure, prix de la mise en scène cannois amplement mérité. En 27ème position, et là je crois que je vais m'adresser seulement à Thibaut, je crois qu'il n'y a que lui qui l'a vu, Fire of Love de Sarah Doza.
Pas vu.
Eh ben je vais dire explosif. Alors pour la petite histoire, j'écoutais un podcast, anciennement Pardon le cinéma, et Arthur Cios me l'a vendu en me disant j'ai vu un documentaire sur les volcans, c'est super, faut y aller. Et effectivement, le podcast Pardon le cinéma sortant un vendredi, je n'avais plus que 4 jours pour le voir puisque le film est sorti des salles. Il a fait une semaine à une séance. Et en discutant avec Arthur Cios, il me dit mais en fait il est disponible sur Disney+. Et là effectivement j'ai foncé sur Disney+, le voir. Et c'est incroyable, c'est une histoire d'amour entre deux vulcanologues qui ont la passion justement d'étudier les volcans. Et c'est juste formidable, il y a des photos, la photographie est superbe, ça reste un très très grand documentaire.
Mais je vais mettre la musique comme au César, je pense.
Ah oui, mets la musique pour qu'il arrête de parler.
Oh, les salauds.
Celui-là avait attisé ma curiosité et j'ai pas été déçu. Production National Geographic, Fire of Love est un documentaire retraçant les histoires du couple Katia et Maurice Kraft, célèbres volcanologues français. Il y a une vraie vulgarisation d'un monde qu'on connaît trop peu et on réalise vraiment les dangers que représente l'étude des volcans. Tout ça ajouté à la complicité du couple Kraft donne un formidable documentaire avec des images sublimes et un montage super immersif. On va enchaîner avec un autre documentaire, numéro 26, Moon Age Daydream de Brett Morgan.
Alors moi je vais commencer, je vais dire Glooby Gulb Glooba.
Glooby vulgaire, non ?
Voilà, vous m'avez compris !
Déroutant. Alors, faut savoir déjà que j'ai dû dormir genre 20-30 minutes. J'étais trop bien dans mon siège. Je voyais un truc de non-sens, de qui m'hypnotisait, ça m'a... Hop, je suis parti comme ça, j'ai dormi. Et non, en fait, je trouve pas le film mauvais, mais j'arrive pas à avoir un avis dessus, en fait, parce que je trouve qu'en termes de qualité esthétique, et même en termes de narration, ce qui est plutôt fort vu ce qu'est le film, je trouve ça assez brillant, mais pourtant, je garde pas un souvenir extraordinaire, et je me suis quand même endormi devant, donc j'arrive pas à développer un avis sur ce film.
Pour moi, c'est un patchwork de tout un tas de concerts de David Bowie mélangés à des extraits de films. On ne sait pas pourquoi soudain on voit Nosferatu. J'ai été en fait un peu dérouté par la longueur du documentaire.
J'adore parce qu'en fait depuis tout à l'heure faites que défoncer les films que je mets dans mon top, ça fait plaisir.
Ah non mais moi, le Bowie je considère que j'ai plutôt aimé. Hein.
Autre docu qui a laissé de côté beaucoup de gens mais qui moi m'a profondément heurté. David Bowie est un artiste fascinant et depuis sa mort la seule tentative de lui rendre hommage, Stardust, s'était réellement cassé la tronche. Sauf qu'avec le soutien de la famille Bowie et de nombreuses heures d'archives personnelles fournies, on avait beaucoup plus d'espoir. Et là, on a affaire à un trip de 2 heures dans la tête de Bowie qui décontenance beaucoup, notamment parce que c'est un joyeux bordel, mais c'est une bénédiction pour le fan de Bowie que je suis. Ça s'essouffle un peu vers la fin, mais je trouve le docu vraiment respectueux de sa musique et de sa personnalité. Un vrai bon moment, quoi. En 25e position, Armageddon Time de James Gray.
Surcoté.
Passionnant.
Alors, je vais désamorcer tout de suite, j'aime bien le film. Sauf que, en fait, mon gros problème avec le film et ce qui me crée de l'ennui devant, même si, encore une fois, j'aime bien le film, je trouve que c'est... Il y a deux films en un, en fait. Il essaye à la fois de traiter de son histoire personnelle, familiale et du racisme aux États-Unis et que les deux se marient pas du tout. Là où monsieur Steven Spielberg, avec son chef-d'œuvre à venir, The Fabelman, arrive parfaitement à combiner donc son histoire familiale et sa passion pour le cinéma.
J'ai trouvé que c'était l'alliage parfait entre tous ces autres films. C'est-à-dire que dans La nuit nous appartient, dans The Yard, il traite effectivement de la famille, de la relation avec le père. Et en fait, tout ça, ce sont des clés pour effectivement Armageddon Time. Et j'ai été bouleversé par évidemment Anthony Hopkins et par une scène qui m'a mis les larmes aux yeux, la scène de la baignoire. Oh mon dieu.
C'était une de mes grosses hypes. Gray livre un film très personnel sur son enfance difficile avec des parents stricts, un grand-père d'une douceur magnifique et l'école, au centre de toutes les ambitions du film. C'est aussi avant tout un témoignage social de l'Amérique raciste des années 80, préférant traîner avec Johnny, camarade de classe noire avec qui il découvre le Sugar Hill Gang. Une manière de raconter l'histoire qui bouleverse et des performances marquantes. Anthony Hopkins redevient vraiment un des acteurs les plus exceptionnels actuellement. Hein. Immense métrage. Bon. Là, pour celui-là, je sais que vous avez tous les deux aimé, donc on est parti. En 24e position, La vraie famille de Fabien Gorgeard.
Oh mon dieu.
Bouleversant.
Émouvant.
En vrai, je pense que je dois remercier Thibaut, parce que je sais pas si j'y serais allé si Thibaut me l'avait pas conseillé. Et enfin, c'était... Je m'attendais pas du tout à avoir un long métrage de cette qualité, à avoir une Mélanie Thierry qui fait une interprétation de cette qualité-là aussi. Et on oublie souvent Félix Moiti, mais c'est vrai qu'il a des rôles pas faciles, qui sont pas forcément des personnages aimables, et pourtant, à chaque fois, il s'en sort à merveille, donc aussi bravo à lui.
Moi, j'ai pleuré pendant tout le film. Parce que le propos est fort bouleversant. Je trouve que Mélanie Thierry est incroyable. Et je trouve le gamin, le petit gamin qui fait passer des émotions folles. Oh, la fin m'a fait pleurer. J'étais avec une connaissance en commun qu'on a avec Hugo, Alexei. Et je suis sorti de là, j'étais en pleurs totales. Et lui était en train de se marrer.
Du grand Alexei.
Ça, c'est pareil, c'était totalement inattendu et quel bien fou. Le film traite du quotidien de famille d'accueil, celle que l'on observe est en train de vivre, ce qui s'apparente à un drame, le départ du domicile d'un enfant qui revient progressivement sous la garde de son père. Les relations humaines et les sentiments, si vous connaissez bien mes goûts, vous savez que c'est mon dada. Et quand c'est bien raconté, avec un œil particulièrement doux et des acteurs formidables, Mélanie Thierry, mon dieu, on en arrive à de grands moments de cinéma. Petite larme, je dois l'avouer. En 23ème position, incroyable mais vrai, de Quentin Dupieux.
Pessimiste.
Déroutant.
Non, bah que dire, effectivement, un film, enfin Dupieux, il a sorti deux longs métrages cette année, je trouve que c'est quand même deux longs métrages fondamentalement pessimistes, même si on rigole plus avec Fume et Fait Tousser. Vraiment, j'ai adoré Magimel dans ce film. L'histoire avec le pénis en robot, c'est tellement con, mais c'est si drôle. Et voilà, merci Dupieux d'exister.
Ah, donc toi, tu balances.
Quoi?
Je trouve les teasers d'Incroyable mais vrai extrêmement bien faits, puisque rien n'est dit. Et Hugo, tout de suite, il met les pieds dans le plat. J'adore. Moi, ce que je trouve...
Non, ça va, je révèle pas
non,
le truc.
Tu révèles le truc secondaire, dirons-nous. Moi, ce que j'aime beaucoup avec ce film, c'est on sent Quentin Dupieux fan du cinéma de Louise Buñuel, et notamment dans un plan qui est le plan des fourmis. Ça m'a totalement hypnotisé. J'adore le propos du film, mais je ne révélerai rien pour les gens qui découvriront le film.
Ce qui me fait rire, c'est que en vous faisant venir tous les deux, je m'attendais à ce que ce soit vraiment les deux vieux dans le Muppet Show. J'ai exactement ça, donc merci les gars, vous remplissez totalement le contrat. Mon Dupieux préféré, voilà. Beaucoup ont préféré Fumer Fait Tousser cette année, par exemple, que j'ai bien aimé aussi, mais je trouve que c'est le plus intéressant de sa filmographie. Ça aborde beaucoup de thématiques actuelles avec brio, et je trouve la métaphore principale du film étant « Notre génération veut tellement ressembler aux standards de beauté que ça nous ronge de l'intérieur » absolument formidable. Dupieux a cette manière de rire du ridicule tout en étant sérieux qui me bluffe. Il y a juste un montage vers la fin du film que je ne comprends pas tellement, mais pour tout le reste, je trouve que c'est ce qu'il a fait de plus complet. En 22ème position, Bonne Zénole de Luca Guadagnino.
Cannibale.
J'ai envie de dire décevant.
Ah.
Donc c'est effectivement le retour de Timothée Chalamet avec ce réalisateur, après Call Me By Your Name. Donc j'avais une grande attente, peut-être que je vivais trop grand sur ce film. Et j'adore la prestation du comédien Mark Rylance, mais j'ai senti une espèce de flottement dans la partie du milieu. Il faut dire que le film dure plus de 2 heures. On les sent quand même.
Moi, je vais juste... j'ai déjà fait cette blague dans un autre podcast, mais du coup, je vais la refaire. Je trouve ça dommage que Armie Hammer ait pas joué dans le film, du coup. Ça aurait été très cohérent. Voilà, non, sinon, c'est un film plutôt sympathique, qui a des beaux paysages, qui a des scènes marquantes, qui a pas beaucoup de scènes gore, mais quand elles sont là, ça tâche bien, donc on est un peu servi. Et grosse révélation, Tyler Russell.
Je ne m'attendais pas non plus à aimer le nouveau Guadagnino, vu que je suis pas un grand admirateur de Call Me By Your Name, mais là ça m'a totalement aspiré. On rentre dans l'engrenage de ce road movie sans jamais en sortir. C'est le duo à l'écran que je pense j'ai préféré cette année, dans le sens complicité de la chose. Et si ça tenait qu'aux acteurs, tout dans ce film respire le cinéma. Les cadres, la mise en scène, la photo... Il y a un vrai malaise instauré sans que ce soit vraiment trop gore, je dirais. Vraie révélation Taylor Russell, qui après Waves enchaîne très bien ses choix de films. En 21ème position, et là ça va peut-être en étonner certains, Crimes of the Future de David Cronenberg.
Oreille.
Je dirais hypnotisant.
Alors c'est quand même, on annonçait le grand retour de Cronenberg, le film est passé à Cannes, tout ça. Je trouve que c'est quand même, comme dirait ce cher William Shakespeare, beaucoup de bruit pour rien. Voilà, je trouve que c'est un film qui est sympathique sans plus. Je sais toujours pas si j'aime bien les assez doux et le body horror est bien. Sinon, j'ai pas grand chose à en dire.
Moi, ce que je retiens du film, c'est la photographie. La photographie est dingue. Ensuite, après, effectivement, le retour de David Cronenberg, faut pas pousser, quoi. Vraiment, faut pas pousser mémé dans les orties.
Un autre retour, celui d'un des papas de l'horreur, et personnellement, ça m'a comblé. J'ai tout de suite adhéré à l'univers du film qui a des concepts scientifiques utopiquement effrayants, dans le sens où ses progrès seraient à la fois fous et terrifiants. Voilà, on peut le dire, terrifiants. La BO de Howard Shore est assez magnifique et illustre des tableaux horrifiques dérangeants. Viggo Mortensen incroyable, Léa Seydoux glaçante, Kristen Stewart sublime. Ça m'a marqué un bon bout de temps cette année. En 20ème position, Enquête sur un scandale d'État de Thierry de Peretti.
Je l'ai raté malheureusement.
Particulier. Je comprends l'intérêt du film. Je le trouve un poil long. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, il y a des interprétations. C'est vraiment un film de comédien. Roche Dizem est formidable. Vincent Lindon dans le rôle, dans un tout petit rôle, il est incroyable. Et Pio Marmaille. Je veux dire, un film mauvais avec Pio Marmaille, ça existe peut-être, mais lui est toujours bon.
T'as vu Tempête ?
Oui, j'ai vu Tempête et je peux te dire que Pio Marmaille, il est très bien.
Et le film ?
Le film est pas mal. Moi, pour tout vous dire, juste un instant, je suis très fan du cinéma de Christian Duguay.
La musique de César.
Non mais je t'en prie Thibaut.
Il est en blanc de ouf.
Bah non mais j'ai dit, je suis très fan du cinéma de Christian Duguay.
Ah c'est tout ?
Bah ensuite après je peux te citer les films. Voilà, c'est des films hyper émouvants.
Thibaut, tu as vu Toute première fois ou pas ?
Toute première fois oui, de Marie-Christine Manson-Char.
Est-ce que... Quel connard. Le thriller français par excellence, hein. Pour un mec comme moi qui rêve de devenir journaliste et très intéressé dans les faits divers, être directement plongé de cette manière dans une enquête à la fois journalistique et policière, ça pouvait que me séduire, et tout m'enchante en fait. J'ai envie d'affronter chaque difficulté avec les protagonistes, de réaliser les recherches, d'aller aux réunions de projets, etc. Le film réussit vraiment son pari, tient son récit et prend en haleine au public. Pio Marmaille et Roche Dizem se subliment. En 19ème position, The Innocence d'Esquilvort.
J'ai vraiment besoin de plus d'un mot là.
Non mais la règle est un seul mot.
Et si c'est une expression ?
Tu pourras la dire après, mais là c'est un seul mot.
Eh bah angoisse.
Je dirais dérangeant.
Bah je suis sorti en crise d'angoisse, tout simplement, voilà. C'était à l'étrange festival, je suis sorti en crise d'angoisse parce que j'ai trouvé ça juste pas super intéressant et très dérangeant de voir juste des gauches qui sont cruelles pour être cruelles.
Moi je trouve que la photo du film est vraiment très réussie. Ensuite la petite gamine, franchement elle m'a bien épaté. Je l'ai trouvé dingue. Maintenant, ensuite, après, je reconnais que le film est complètement malaisant et qu'il a mis mal à l'aise mon collègue.
T'as un peu de fragilité aussi là-dedans.
Très fragile.
Non mais on est où là ?
Scénariste de Joachim Trier, donc de Julien du chapitre. J'attendais énormément le film d'Esquilvort. J'ai pas été déçu de la proposition. Bien qu'un ventre mou léger soit présent, le film monte crescendo en tension dans un monde où des enfants découvrent qu'ils ont des particularités surnaturelles. Magnifique photo, magnifique cadre. The Innocence, c'était une des bombes de l'année et son dénouement reste à ce jour une des meilleures expériences ciné de l'an dernier. En 18ème position, et je sais que celui-là va faire très plaisir à Thibaut, Close de Lucas Dont.
Oh putain.
Trauma.
Pépite.
Comme je l'ai dit, il y avait des traumas en moi, donc sur lesquels j'ai toujours refusé de m'exprimer, et donc je vais continuer dans ce refus de m'exprimer sur Close.
Moi, j'ai beaucoup aimé le film. J'étais totalement en pleurs. Hugo dira assez rapidement. Moi, je dirais que non. Mais j'aime cette histoire d'amitié entre ces deux gamins. Ce qui m'a très surpris, c'est que je m'attendais à voir le petit brun assez fort et le petit blond assez fragile. Et ben en fait, j'ai été surpris du début à la fin. Sans oublier le rôle incroyable des deux mamans que sont Léa Drucker.
Émilie Dequesne.
Oh, Émilie Dequesne.
Ça par contre, c'est peut-être le seul truc que j'ai dit sur le film. Mais oui, Émilie Dequesne, je rejoins de tous les jours, je rejoins les gens qui disent qu'elle joue bien parce qu'elle est extraordinaire dedans.
Deux ados qui entrent en école secondaire voient leur relation être sujet à de multiples suppositions de la part de leurs camarades. L'un des deux, gêné de la situation, décide de prendre ses distances, ce qui provoque chez le second une profonde tristesse. Même si le twist est attendu et le film assez inégal, c'est un film qui secoue, vraiment. Quand les événements arrivent, on peut que se les prendre en pleine tronche, et ça fait mal. Eden Dambrin est une révélation et Émilie Dequesne me brise le cœur. Plus belle photo de l'année ex-aequo avec un film qu'on va voir un peu plus haut dans le classement. En 17ème position, Alerte Rouge de Domichi.
Film de plateforme, je m'en tape royalement pour être honnête.
Décevant. Toi Hugo, tu as, avec Sébastien Marnier, le fait que tu apprécies beaucoup le film Alerte Rouge. Mais Effectivement, je l'ai vu sur ma tablette. Je me suis limite fait chier, quoi. Je veux dire, pour moi, les dessins animés, surtout de Disney, doivent être vus sur un grand écran. Là, sur ma tablette...
Attention juste avec le terme dessin animé.
Oui, c'est un film d'animation.
Film d'animation, dessin animé, voilà. Je me suis dit, c'est quoi ce film ? Le propos est pas hyper génial. On passe, quoi, next.
Alors, celui-là, vrai plaisir coupable. Je m'attendais pas du tout à ce que ça me fasse autant d'effet, mais ça va beaucoup plus loin que la simple histoire fantaisiste que Disney nous promet. Ce film d'animation, il parle vraiment d'émancipation de la femme à l'adolescence. Je vois vraiment une allégorie des règles perso dans les monstres qui sont présents dans le film. Ça parle de s'affranchir de l'autorité, de la starisation à outrance, c'est peu commun de s'engager là-dedans côté Disney, quoi. C'est réussi de bout en bout et j'ai passé vraiment un excellent moment, ça reste un très bon souvenir de 2022, et toujours l'un des films où je me suis vraiment dit « Bah putain, ok, d'accord, très bien ». En 16e position, Spencer de Pablo Larraín.
Je compte le rattraper, mais je l'ai pas vu.
Pas vu.
Mais non.
Alors, film de plateforme, pas le temps, voilà.
Ça m'a fait ça à tous les films de plateforme, c'est-à-dire que je suis hypé, et en fait, bah, le film sort et j'en ai plus rien à foutre.
C'est ce film-là qui est ex-aequo au niveau photo. Il aura fallu attendre près d'une dizaine d'années pour qu'on donne un rôle qui mette réellement en valeur Kristen Stewart, et c'est formidable que ce soit sous Pablo Larraín. Histoire d'une Diana aux périodes de Noël qui se rebiffe et qui est prête à tout pour protéger ses enfants, de vraies scènes de tension, de confrontation, Spencer fait vraiment partie de ces films qu'on aurait aimé voir dans une salle de cinéma. En 15e position, celui-là va vous étonner, parce que même moi il m'a étonné...
Thor 4.
Non. En 15e position... Chronique d'une liaison passagère d'Emmanuel Mouret.
Doux.
Romantique.
En fait, je suis vachement emmerdé parce que quand j'ai vu Vincent McCain à la première de En même temps, je me dis que j'avais adoré Médecin de nuit et que je voulais le voir dans plus de rôles comme ça, plus de rôles comme Médecin de nuit. Mais en même temps, moi, ces rôles chez Mouret, ça me va très bien. J'avais déjà beaucoup aimé les choses qu'on dit et les choses qu'on fait. Ah. Et je trouve que bah, c'est dans la continuité. Je trouve ça quand même un peu moins passionnant. Mais en fait, c'est juste qu'il arrive... C'est du texte qui est basique, qui est hyper théâtral, mais il arrive à rendre ça passionnant.
Alors moi, au contraire de toi, Hugo, j'avais pas spécialement aimé les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, sauf l'interprétation d'Emily Deakin, encore elle, qui était incroyable dans ce film. Moi, j'ai trouvé le film très très intéressant, notamment dans le fait de filmer uniquement les rencontres entre Sandrine Kiberlain et Vincent McCain, ne pas voir l'à côté, je dirais, pour garder juste l'intense, le charnel, on va dire, de la rencontre. Et c'est ça qui est formidable.
Bah alors, si on m'avait dit en début d'année que je mettrais le film d'Emmanuel Mouret dans mon top 15, j'aurais été très sarcastique, je pense. Et pourtant, j'ai manqué de superlatifs en sortant de la salle. Une mise en scène vraiment intimiste et précise, et on se concentre essentiellement sur les moments de rencontre de nos amants. Une jolie photo et un récit qui prend une tournure très mélancolique, ça m'a comblé. Kiberlain et McCain sont toujours au sommet de leur art, et leur complicité à l'écran est sublime. Surprise de mon top, mais bonheur inconditionnel. En 14e position, À plein temps d'Éric Gravel.
Éreintant.
Bouleversant.
Non, c'est un film qui, en gros, moi, me fait un effet que j'ai pas souvent. Ça m'a fait ça avec Uncut James. Mais
merci.
Mais il y a une grosse... Non, mais attends, parce que Uncut James, c'est défavorable par rapport à Un plein temps, parce qu'en fait, c'est deux films qui, en fait, quand je les ai regardés, m'ont essoufflé, genre physiquement. C'est-à-dire que, genre, dans la salle, j'étais... Putain, genre, pause, vite, s'il te plaît, arrête-toi, parce que là, j'en peux plus. Sauf que À plein temps, c'est un film qui me reste beaucoup plus en mémoire qu'Uncut James. Donc James, j'avoue que j'ai un peu oublié que... Bah en vrai, sur le moment, je le trouve effectivement éreintant, tout ça, hyper prenant et tout, mais après, il m'en reste pas grand-chose, alors qu'un plein temps, je trouve qu'il y a quand même un propos, il y a quand même une interprétation. Moi, ce qui m'a fait chier, c'était les Césars 2021, quand Laure Calamy bat Virginie Efira dans Adieu les cons. Déjà, qui peut battre Virginie Efira dans Adieu les cons, mais surtout pas
Laure Calamy. Bah Laure Calamy dans Toilette dans les Cévennes.
Bah non, parce qu'elle joue pas bien et c'est pas un bon film. Alors que l'année dernière dans À plein temps, dans Une femme du monde, pardon, elle le méritait. Cette année, elle le mérite pour À plein temps. L'origine du mal, je sais pas parce que c'est pas la meilleure dans le film. Et Annie Colère, je l'ai pas vu. Mais donc en tout cas, À plein temps, oui, je suis d'accord. Une femme du monde, je suis d'accord. Antoinette dans les Cévennes, je suis pas d'accord.
Moi, j'ai vu le film en avant-première au Hall. Et effectivement, pour détendre l'atmosphère, Laure Calamy a fait le clown, a sorti des espèces de gros confettis et a balancé en disant c'est la fête. Et c'était extraordinaire. Le film commence, tension de fou sur mon siège. J'étais agrippé à mon siège et pendant tout le film m'a happé. J'étais vraiment avec elle dans les transports. limite elle suait, j'étais en train de suer. C'est un film hyper immersif. J'aime beaucoup la voisine qui garde les enfants.
Merci, juste merci Laure Calamy d'être bourré à chaque avant-première parce qu'on rigole beaucoup.
Oh, c'est
l'avant-première de L'Origine du Mal à l'Étrange Festival, c'était très rigolo.
Laure Calamy postule encore une fois chaque année au César de la meilleure actrice, sauf que cette année elle pourrait être nommée au moins 3 fois. Voilà. Elle prend ici les traits d'une femme de ménage qui rêve de rembrasser une carrière de cadre. Elle passe son temps à courir partout, mais quand le jour de son entretien le plus important vient, la grève joue contre elle et une course contre la montre s'instaure. Un jeu qui va mettre à mal le spectateur jusqu'aux dernières seconde, libératrice de larmes de joie tant chez l'actrice que chez le spectateur. Le cinéma avec un grand C. En 13e position, et je sais qu'il y en a qui va me dire j'en ai rien à foutre, Athéna de Romain Gavras.
C'est moi j'en ai rien à foutre ?
Oui.
C'est pas que j'en ai rien à foutre, c'est que je me suis... Enfin, je l'ai lancé et que je me suis endormi devant en fait. C'est tout. Et je l'ai jamais repris. Donc dodo.
Bluffant. Pour être honnête avec vous, le film fait partie de mon top, mais je l'ai enlevé exprès parce que sur plateforme.
Ça, on en a déjà parlé. Je trouve que ça n'a pas trop de sens comme décision, dans le sens où moi, si les films de plateforme, je dis que je les ai pas vus et je n'aimais pas d'habitude, c'est parce que j'ai énormément de mal à regarder des films de plateforme. Mais en aucun cas, je considère qu'un film de plateforme a moins de valeur qu'un film en salle. Un film reste un film, quel que soit le support.
Et il y a des films qui sortent sur plateforme qui devaient sortir en salle de base. On pense à Comment je suis un super-héros, tu vois, genre c'est pas forcément mérité. Et je pense que Romain Gavras a pas conçu son film en disant les mecs vont le regarder sur Netflix.
Moi je trouve effectivement la mise en scène de Romain Gavras extraordinaire. Il y a un plan séquence de malade. Et il y a une prestation qui m'a bluffé, c'est celle de la révélation, j'ai envie de dire, qui s'appelle Anthony Bajon.
Ah, et Anthony Bajon, ça y est, il a 58 ans, le mec, il est toujours
en... Il est toujours en révélation.
C'est un des autres films que je regrette de pas avoir pu découvrir en salle, hein. Merci Netflix. Le collectif Courtrage-mais vient encore prouver qu'il tutoie les sommets du 7ème art. Des jeunes qui transforment leur banlieue en zone de guerre pour faire éclater la vérité sur la mort d'un des enfants du quartier. En termes d'imagerie, c'est exceptionnel. De même pour la mise en scène et le montage, hein. On repense à ce plan séquence de début de film qui reste pour moi une énigme époustouflante. Les acteurs sont archi convaincants et Sami Slimane devrait revenir sur nos écrans très rapidement. En 12e position, et là, j'en connais un qui va me dire « j'en ai rien à foutre ». Et pourtant, il avait adoré son précédent film, donc j'espère qu'il l'a vu quand même. The Green Knight, de David Lowery.
Effet plateforme. C'est-à-dire que j'avais une hype, mais qui était stratosphérique. Et au final, j'ai vu le film sortira sur Amazon Prime. Ma hype, ça a fait... Vous voyez, quand vous allez au parc Astérix, comme ça, vous montez dans Tonnerre de Zeus, comme ça, hop, et il y a la descente, bah voilà, ça c'était ma hype. Mais je vais le rattraper à la fin de mes examens, parce que là, j'ai pas le temps, mais je vais le rattraper.
J'ai commencé le film et je me suis arrêté au bout de 20 minutes. Et j'ai pas repris, parce que film de plateforme.
Et t'as dit de la merde, c'était pas son précédent. A Ghost Story n'est pas son précédent.
Eh ben autant pour moi. C'était quoi son précédent ?
C'était The Old Man and the Gun. Je sais, je l'ai pas vu.
Pas vu non plus. Personne n'a retenu ce film, donc voilà.
Non, mais ça a l'air rigolo. C'est un vieux qui fait des braquages. Encore avec Cassie Affleck. Bah, ça a l'air rigolo, ça. Je vais le regarder, en fait. Ça a l'air drôle.
C'était mon tout premier coup de cœur de 2022. J'avais été très sceptique envers A Ghost Story, mais il faut l'admettre que là, j'ai fini sur le cul. Récit d'un héritier au trône qui veut prouver sa valeur en affrontant tous les monstres de son royaume et finir par le fameux et redouté Chevalier Vert. Encore une fois, le film possède une sublime photo, des effets visuels marquants et des décors majestueux. Il installe Dev Patel comme un des acteurs les plus prometteurs de sa génération et confirme que le jeune Barry Keoghan est à suivre. En 11e position... Un film qui a fait beaucoup débat, donc je ne sais pas si vous aimez ou pas, mais moi il est là parce que c'est un film qui m'a énormément parlé, qui m'a énormément touché subjectivement. Voilà, ça parle un peu de ma vie, ce film, donc c'est pour ça qu'il est si haut, je pense pas l'entrer si haut, mais voilà. Les Corail's Pizza, de Paul Thomas Anderson.
J'espérais tellement que... Bref, surcoté...
Chef d'œuvre.
J'espérais tellement pouvoir parler de ce film, putain, j'espérais tellement qu'il allait arriver, que j'allais pouvoir placer mon mot... Alors, moi, je tiens à dire qu'un truc qui m'a fondamentalement énervé, c'est les gens qui, au bout de 3 jours, il y a eu une super blague coupée au montage, malheureusement, qui, après 3 jours, ont vraiment lâché Licorice Pizza et le meilleur film de l'année, et ça ne bougera pas.
Mais oh, l'énorme CSC, tu le fais tout le temps, mec. Il y a plein de films où tu dis, oh, ça, c'est le meilleur film de l'année, les gars, alors qu'on est en février, genre, vraiment.
Nuance. moi, quand j'entends c'est le meilleur film de l'année, j'entends c'est le meilleur film de l'année pour le moment. Là, je vais te dire que The Fabelman est le meilleur film de l'année. Là, je vais te dire que actuellement, là, maintenant, The Fabelman est le meilleur film de l'année. Mais il y a encore 12 mois de sortie cinéma et il peut être dépassé. Sauf que là, les gens, enfin, en tout cas, moi, ce que je critique pas les gens qui disaient ça dans le sens où moi je l'entends. Je critique les gens, et je sais qu'il y en avait, qui disaient ça dans le sens où c'est le meilleur film de l'année, ça ne bougera pas. Parce qu'il y a des gens qui l'entendaient dans ce sens-là, alors que ça faisait 3 jours. Et je mets dans le même panier les rédactions qui publient leur top en décembre. Il y a encore un mois de sortie. Traitez tous les films et après, faites votre classement définitif. Si vous êtes là, vous enfermez dans une case. Moi, Fabelman, bon, j'ai adoré, je considère que c'est un chef-d'œuvre, mais je suis encore ouvert parce que je pense qu'il y a des films qui peuvent le dépasser. Et il y a tout le temps des films qui peuvent dépasser les autres films. Donc moi, ce que je dis, c'est juste laisser une chance à tous les films et ne mettez pas un truc carré, un truc définitif dès le troisième jour de l'année.
D'accord, Hugo, maintenant, est-ce qu'on peut parler du film ?
Oui, j'y viens, parce que je trouve que c'est un film qui est fondamentalement surestimé, parce que on parle quand même de Paul Thomas Anderson, et que le mec, c'est pas n'importe qui. Pour moi, il y a vraiment un chef-d'œuvre de sa filmographie, c'est Magnolia.
Hugo, tu peux sortir la musique des Césars, là ?
Je t'emmerde. Mais en fait, bah, je trouve que c'est un peu fade. En fait, je m'attendais à ressentir énormément de trucs dans ce film. C'était typiquement le genre de film qui était fait pour me plaire. Et au final, je vois toutes les qualités. Je vois toutes les qualités techniques, esthétiques. Voilà, mais je trouve qu'en fait, dans la relation entre les deux personnages qui sont censés... Bah, vraiment, la relation, c'est censé être le point culminant du film, le point fort, le truc qui porte le film. Et je trouve ça un peu trop fade. Je trouve que ça me procure pas assez d'émotions. Et voilà, moi, c'est peut-être débile, mais moi, les émotions, c'est un truc auquel j'accorde beaucoup de crédit. Et c'est pour ça, par exemple, qu'un West Side Story de Spielberg n'a pas été plus haut dans mon top parce qu'il m'avait manqué la petite empreinte émotionnelle. Et j'ai ça avec Licorice Pizza, voilà, je trouve que la relation, pour moi, ne dégage pas assez de choses.
Est-ce que la musique des Césars, c'est terminé ?
Oui, tu peux y aller, mon cher Thibaut.
Alors, déjà, je voudrais répondre juste à Hugo pour dire qu'il dit, suite au troisième jour, c'est pas le troisième jour puisque le film est sorti le 5 janvier, donc
c'est pareil.
Cinquième jour. Mais bon, faut être précis dans la vie. Alors, j'ai été très très ému par ce film. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la prestation du fils de Philip Seymour Hoffman, que je trouve incroyable. Ça m'avait fait la même chose avec le fils de Dennis Hopper dans le film de Gus Van Sant, Restless. Le film n'était pas très très bon, mais lui dégageait quelque chose d'assez incroyable. J'adore le plan séquence du début. Je trouve que cette histoire d'amour où les deux personnes ne regardent pas dans la même direction, bah, assez bouleversant. Et c'est pour ça que...
Ouais, ça existe en mieux, ça s'appelle Falcon Lake.
C'est pour ça que il est top 1 de mon top de cette année.
Quelle œuvre humaniste entière. Oui, Alan Haim et Cooper Alexander Hoffman percent l'écran. Oui, le film a des ressorts scénaristiques intelligents et fins. Oui, c'est un témoignage de la société américaine d'une époque où tout est possible. Mais le film m'a surtout touché subjectivement dans cet amour aussi évident que balbutiant entre les protagonistes, ce jeu de fuis-moi je te suis, fuis-moi je te fuis. Et bien que le film possède des incohérences et que certains le trouvent creux dans bien des domaines, il reste pour moi un réel moment de réflexion. C'est resté très longtemps dans mon esprit et j'ai eu beaucoup de mal à me remettre de ça. Bon, et bien, merci beaucoup les gars pour votre participation. Rappelons que vous avez tous les deux des pages Insta et Twitter super, et qu'Hugo a même 65 podcasts tous plus cool les uns que les autres. Merci à vous, et pour découvrir les 10 premiers du classement, il faudra écouter le podcast les gars. Merci à vous.
Salut.
Merci à toi.
Ça y est, on est de retour entre nous et on va pouvoir parler des 10 meilleurs films de l'année selon mon avis subjectif. Il faut savoir que l'année dernière, on avait eu 4 films français présents dans le top 10 avec Annette, Titan, La Nuée et Slalom. Cette année, mon top 10 est composé également de 4 films français, mais également de 5 films américains et un film danois. Voilà, se poser là, un film danois. Oui, encore le cinéma scandinave au sommet de mon classement, pas ma faute si c'est actuellement l'un des meilleurs dans le monde. Je rappelle à toutes fins utiles que ce classement ne regarde que moi et mon avis personnel. Je ne dis pas que ce sont les meilleurs film de cette année et que si vous n'avez pas le même classement que moi, bah vous êtes des débiles. Je dis que ce sont ceux qui m'ont le plus touché. Ce sont mes meilleures expériences, mes meilleurs moments avec le cinéma en 2022. Voilà, maintenant que tout est dit, je pense qu'on va pouvoir y aller et commencer. En 10e position, L'Origine du Mal, de Sébastien Marnier.
Comment est-ce que tu as fait pour me retrouver ?
Serge vous avait dit qu'il avait une autre fille.
Vous lui ressemblez pas beaucoup.
Serge a toujours eu beaucoup de succès auprès des femmes.
Il y en avait forcément de moins jolies que d'autres.
Mais j'imagine que pour vous, la situation n'a pas dû être facile tous les jours. Mais s'il vous plaît, je vous demande de ne pas revenir.
Depuis mon accident, c'est devenu compliqué ici.
Celui-là, je l'attendais beaucoup, il faut dire que j'ai pas été déçu. Il faut savoir que l'équipe du film avait fait des vidéos carnet de bord avec Sens Critique il y a de ça 2 ans quasiment, et que j'avais pas voulu les regarder pour ne rien savoir du projet tellement j'étais hype et que je voulais pas me faire spoiler le moindre petit détail. Hype parce qu'évidemment, quand on me propose un film avec au casting Laure Calamy, Doria Tillier et Céleste Brunkel, bah forcément je dis oui, hein, voilà. Et surtout quand je vois qu'à la réalisation c'est Sébastien Marnier, le papa de l'heure de la sortie, je suis d'autant plus intrigué, et mes attentes se situaient dans les bons domaines. Dans le film, Stéphane retrouve son père qu'elle n'a jamais connu et sa famille. Lui est un homme riche, sa compagne une femme extravagante, sa fille une femme d'affaires glaciale, et la petite dernière, une ado rebelle voulant s'affranchir de toute responsabilité. Quant à la servante, elle inquiète plus qu'autre chose. Une personne dans ce tableau. Mais qui est-elle? L'Origine du Mal est un film de comédien. Il brille par les performances de ses acteurs, et le pire c'est qu'ils sont vraiment tous au niveau. Laure Calamy bien évidemment qui arrive à nous perdre dans le récit, capable de jouer la folie avec tant de maîtrise qu'on a vraiment envie de gober tout ce qu'elle nous raconte. Suzanne Clément qui continue à chaque fois qu'elle passe devant une caméra de me tirailler entre fanatisme absolu et incompréhension. Hein, sérieux, quand je la vois dans L'Origine du Mal et Laurence Anyways par exemple, bah je me demande bien ce qu'elle vient faire dans Le Jeu ou Les Fantasmes. Elle est brillante dans le film à tout plein d'égards, et beaucoup pourraient justement dire que c'est Laure Calamy qui mène tout son monde à la baguette, mais je trouve le rôle de Clément capital dans le tempo instigué au film, parce que c'est par son personnage que tout arrive. Les petits rôles de Doria Tillier et Céleste Brunkel fonctionnent très bien dans le récit, même si j'aurais peut-être aimé les voir plus s'épanouir, montrer plus. Et comment ne pas parler des seconds rôles de Jacques Weber et Dominique Blanc, que j'attendais pas forcément pour être honnête, et qui m'ont cloué. Je retrouve vraiment des airs de Deneuve dans l'interprétation de Dominique Blanc d'ailleurs, qui aurait carrément pu incarner le rôle, même si Dominique Blanc est super, sans parler aussi de Véronique Ruggiasaora, j'espère que je le prononce bien, que j'aimerais personnellement pas avoir comme servante, on peut dire ça comme ça quoi. Je l'ai pas dit clairement depuis le début, mais l'écriture est le point central du film. La mise en scène aussi bien évidemment, mais je trouve vraiment l'écriture au centre du projet. Tous les dialogues, enchaînements de scènes, caractérisation de personnages sont réussis. Je me suis demandé si le film n'était pas une adaptation carrément, mais non, il nous provient tout droit de l'esprit de Sébastien Marnier. Le film repose sur un fondement bien précis étant qui ment, qui nous cache des choses. Et le film est très bon pour nous lâcher des pistes à droite à gauche pour que tous soient potentiellement coupables. Je comprends la comparaison qui a pu être faite avec Knives Out, mais je trouve qu'elle n'a pas trop lieu d'être. Là où Knives Out est un vrai film d'enquête, un whodunit, L'Origine du Mal ne l'est pas. Je trouve que ça emprunte plus par exemple à Tartuffe, le fait qu'un intrus s'incruste dans la famille et sème la zizanie. Bref, en termes d'écriture, c'est une des meilleures choses que j'ai pu voir cette année, et notamment grâce à ce twist final que je n'ai pas attendu et qui est venu vraiment bafouer toutes les certitudes que j'avais jusque-là. On a des décors et des cadres plutôt plaisants, également avec ces plages et ces villas où tout le monde aimerait habiter, je pense. Maintenant, le film a quelques limites, notamment niveau technique, je dirais. La photo est plutôt correcte, mais pas de quoi casser trois pattes à un canard non plus. Comme je l'ai dit, Céleste Brunkel et Doria Tillier ont des rôles mineurs et j'aurais voulu les voir peut-être un peu plus, même si c'est prendre un risque dans la gestion de l'équilibre. Le film a de très, et j'insiste sur le très, léger ventre mou, parce que dès que je regardais ma montre, ça repartait. Sinon, c'est vraiment ce qu'on aime voir en termes de cinéma français. C'est à la fois un drame, une comédie, un thriller, ça convient à des spectateurs arrêtés comme au grand public. Vraiment très très hâte de voir ce qui se profile pour Sébastien Marnier dans l'avenir, mais cette année, 9 autres films m'ont plus touché. En 9e position, Avatar, la voix de l'eau, de James Cameron. We cannot let you bring your war here. Outcast, that's all they see. I see you. The way of water connects all things. Before your birth. And after your death. This is our home! I need you with me. I need you to be strong. Alors cette critique va être très très étrange pour vous, parce que vous vous attendez à ce que je dise du bien du film, forcément, hein. Il est dans le top 10, donc c'est le plus grand succès de l'année publique aussi en seulement 2 semaines, mais c'est pas ce que je vais faire exactement. Avatar, c'est l'événement cinématographique de l'année, qu'on le veuille ou non, c'est l'événement cinématographique de l'année. Et dans cette critique, je vais plutôt vous expliquer pourquoi il n'est qu'à la 9ème place de ce classement. Alors juste, on va quand même se vendre les qualités du film, hein. Des cadres et décors et effets visuels sublimes, bien évidemment. Sérieusement, le nombre de plans de cinéma qu'on retrouve dans ce film, c'est hallucinant. Je pense notamment au plan de Loak qui nage avec un Tulkum, qui est sensationnel. Je trouve que l'incrustation des nouveaux personnages à l'histoire est très bien faite, et sincèrement, j'adore la mythologie d'Avatar. On avait reproché au premier, je trouve, à tort personnellement, de pêcher scénaristiquement. Bah, je trouve ici que l'histoire vraiment est très absorbante et bien gérée avec le tempo du film. Les 3h15, je les vois pas passer, quoi. Voilà, ça c'est tout le positif que j'ai envie de ressortir du film. Maintenant, passons au négatif. 13 ans, James. il y a des gens qui sont fans du premier film et qui n'ont pas pu voir le deuxième. Je veux dire qu'ils sont décédés entre temps. Quand le premier est sorti, j'étais à l'école primaire. J'avais pas le brevet, j'avais pas le bac, j'avais pas de licence, j'avais pas le permis. J'étais puceau, James. 13 ans. On s'attend à ce que tu reviennes avec un produit parfait. Comment tu peux nous pondre des dialogues aussi médiocres? Et vraiment, médiocre, le mot est faible. Vraiment, c'est d'une pauvreté assez monstrueuse. Je crois que l'exemple le plus marquant, c'était à chaque enlèvement d'enfants, quand ça venait de les libérer, toujours la même phrase. Oui, il y a mon papa, il va venir te détruire la tronche. Regarde, il est là. Sous différentes formes, bien sûr. Mais c'est insupportable de niaiserie. Vraiment. Ou encore le moment où le colonel est sur le bateau du pêcheur des Toulkoum, le capitaine de l'embarcation et le scientifique lui explique ce qu'il a à savoir, tranquille, voilà, normal, petit échange normal. Et du coup, le colonel lâche qu'il réquisitionne le bateau parce que MDR LOL, il fait ce qu'il veut. Le capitaine du bateau lui dit qu'il a de la poiscaille à aller chasser, et là, s'ensuit une scène mythiquement ridicule où le colonel lui dit « Alors jusqu'ici, j'étais gentil, mais je peux être méchant. » Et t'as l'autre qui répond « Bon, bah, vu comme ça, hein. Allez les gars !» Faites ce qu'il vous dit. Mais connard, est-ce que je regarde Plus belle la vie? Non, parce que la série s'est terminée en novembre, alors écris mieux sérieusement. Outre les dialogues, il s'est passé un truc qui m'a bien saoulé. Il y a 13 ans, des gens frustrés n'avaient pas eu leur dose de testostérone. Hein. En effet, spoiler alerte, mais je me dis que plus d'une décennie plus tard, il y a prescription. Hein. Mais à la fin du 1, le colonel ne se fait pas tuer par Jack Sully, mais par Nate Healy. Et ça en a dérangé certains. Oui, oui, je vous jure, gros problème de fragilité. Et je vous jure que quand on regarde le film, je suis sûr que Cameron a pris ça en compte. Genre, c'est pas possible autrement. Je refuse de croire qu'il a pertinemment écrit son film comme ça. Parce que du coup, il fait tout pour que cet affrontement entre couilles arrive à multiples reprises. Genre, on veut ce duel Jack Sully-colonel. Ce qui fait que ça pète totalement sa trame scénaristique qui devient cyclique et donc redondante et donc chiante. C'est le même genre de choses que je pouvais reprocher à Bohemian Rhapsody par exemple. Et là, le truc, c'est les enfants de Jack font une connerie, ils se font kidnapper, papa vient les sauver.
Papa.
On nous montre des décors paradisiaques, les enfants de Jack font une connerie, etc, etc. J'arrive pas à croire que James Cameron, réalisateur des deux premiers Terminator, True Lies et Titanic, pète sa trame scénaristique en cédant à ses fans. Ça me fait vraiment mal cette vision, je vous jure. Je voulais terminer sur un truc très subjectif, mais c'est mon classement, donc bah, je fais bien ce que je veux en fait. La 3D a raté. Ça n'a pas pris. Donc, arrêtons les frais avec cette technologie. C'était bien cool, voilà, on s'est amusé, mais maintenant, par pitié, genre stop. J'avais bien aimé la 3D dans le premier film, et c'est d'ailleurs la seule que j'ai appréciée, hein, la seule 3D que j'ai pu apprécier devant un film. Mais là, dans le 2, bah, bien sûr qu'il y a des plans hyper stylés en 3D, je vais pas vous dire le contraire, c'est vraiment pas pour être de mauvaise foi que je dis ça. C'est que je pense sincèrement que le passage à la 3D a raté, en fait. Là, ressortir de 3 heures de ça, ça fait mal aux yeux et ça pète le crâne, c'est un truc de ouf. Surtout qu'il y a vraiment certaines scènes où les mouvements sont trop fluides, trop rapides, tellement que j'avais l'impression de voir des cinématiques de jeux vidéo. Genre, je suis au cinéma en fait les gars, je suis pas devant Call of. Enfin bref, Avatar 2 est un des films de l'année bien sûr, et tout le mal que je viens de dire dessus n'enlève en rien les autres qualités du film et le fait qu'il faille le voir. Maintenant c'est juste une petite déception quoi. Voilà, je conclurai par ces mots, petite déception. Mais cette année, 8 autres films m'ont plus touché. En 8ème position, Top Gun Maverick de Joseph Kosinski.
30 plus years of service, combat medals, citations. Only man to shoot down 3 enemy planes in the last 40 years. Yet you can't get a promotion, you won't retire. Despite your best efforts, you refuse to die. You should be at least a 2-star admiral by now. Yet here you are, captain. Why is that?
It's one of life's mysteries, sir.
Grosse attente depuis au moins 3 ans pour celui-là, Top Gun Maverick a séduit bon nombre de spectateurs, étant le deuxième plus gros succès de l'année en salle. Car oui, un film avec Tom Cruise qui fait des pirouettes dans un avion de chasse, ça ramène toujours du monde en salle. Maintenant on le sait tous, avoir un grand succès en salle ne signifie pas que tu es un grand film, hein, SO No Way Home. Et beaucoup se demandaient, même si allier succès grand public et grand film était redevenu possible avec l'avènement des films de super-héros avec des scénarios à 3 francs 6 sous. Et bien c'est à ce moment que Top Gun Maverick arrive et déploie son œuvre sur le tapis rouge de Cannes, patrouille de France à l'appui, et vient nous tarter. Parce qu'il faut se le dire quand même, j'avais bien aimé le premier mais ça m'avait pas tant marqué que ça. Mais là, vraiment, quel plaisir. Genre le 2 est beaucoup mieux que le 1. Bien sûr que si tous les divertissements grand public étaient comme ça, le cinéma irait mieux. C'est un pléonasme. Top Gun Maverick est l'un des films qui donne le plus d'espoir cette année, je pense. Bon, l'histoire, c'est celle de Pete Mitchell, dit Maverick, qui est appelé par son ancien ami Tom Kaczynski, dit Iceman, pour former les élèves de la célèbre école de pilotes de chasse Top Gun. Sauf que dans cette promotion se trouve Bradley Bradshaw, dit Rooster, qui se trouve être le fils de Nick Bradshaw, dit Goose. Oui, il y a beaucoup de pseudos, alors accrochez-vous. Un de ses anciens amis décédé. Il avait fait la promesse d'empêcher son fils de devenir pilote à son tour. Et le film va donc jongler entre la question de tenir sa promesse et en même temps de préparer ses élèves à une grosse intervention qui pourrait changer la face du monde, hein, concrètement, en cas d'échec. Puis pour ajouter à tout ça, Maverick revoit toutes les personnes qu'il avait connues à l'époque, dont la sublime Penny. Tout d'abord, pour moi, le cinéma de Joseph Kosinski jusqu'ici, c'était Tron l'héritage, que je trouve injustement décrié parce que bien qu'il ne soit pas parfait, bah il arrive quand même à réinventer quelques points du film de base et à livrer des FX vraiment pas dégueulasses. Puis cette année est également sorti Spiderhead, film de plateforme à concept hoquetière et à la musique exécrable. Donc, un auteur qui se cherche, ça s'annonce jamais bon, mais quand tu t'attaques à une grosse franchise, normalement, bah, faut essayer d'avoir une identité remarquable. Comme Denis Villeneuve, par exemple, avec ses Blade Runner 2049 et Dune. Bah là, franchement, après avoir vu Top Gun 2, tout du moins, il a les clés en main, quoi. Bien sûr qu'on peut parler des acteurs qui sont tous au niveau, hein, entre un Tom Cruise qui non seulement ne prend pas une ride, mais en plus continue d'avoir un état de forme incroyable. On peut parler d'un Miles Teller que moi j'ai toujours aimé en tant qu'acteur et qui là livre une performance plus qu'admirable. On peut parler aussi de Val Kilmer qui est déchirant. L'acteur de Hangman, Glenn Powell, qui pour moi est une révélation. Je veux dire, il a vraiment une gueule, comme on dit. Ed Harris, tyrannique comme très souvent, ou encore Jennifer Connelly, qui fonctionne très bien en duo avec Tom Cruise. Les acteurs participent vraiment à la réussite du film, en fait. Mais de plus, ce scénario, on y croit. On est dedans. On est concerné par le film. C'est un long métrage qui n'a pas de baisse de régime. Jamais senti de ventre mou, tout s'exécute et s'enchaîne avec beaucoup de fluidité. Il y a de vraies scènes de tension qui embarquent le spectateur comme si on était dans le cockpit. Il y a plusieurs trucs que j'ai beaucoup aimé en vrac aussi, du coup. Cette espèce de délocalisation de la relation père-fils entre Maverick et Rooster, ça fonctionne à merveille. Ça arrive très souvent que certains enfants ayant perdu un père ou une mère retranscrivent leur relation sur une personne du même âge. Ça a déjà été plus ou moins bien retranscrit au cinéma, mais là ça marche, on y croit. Il y a une vraie complicité entre les deux. La lumière du film est vraiment très belle. Il n'y a pas un seul plan qui n'est pas joli, et c'est grâce à la lumière qui vient donner un coup de jeunesse, là où l'original avait justement une image assez fade, je trouve. La BO est super cool, et c'est un contraste assez saisissant qu'on peut faire avec Spider-Head, encore une fois, hein, qui est l'un des pires trucs que j'ai pu entendre cette année, soyons clairs. En parlant de musique, la scène de Great Balls of Fire, c'est toujours un kiff monumental. J'aime vraiment cette ambiance de bar suspendu entre plusieurs époques, ça a un réel cachet. Et le dernier point que je voulais aborder, comment parler de ce film sans parler des scènes de voltige qui sont couper le souffle. Voilà, c'est ce que je dirais. Les avions de chasse sont vraiment des personnages à part entière du film et leur mise en scène est captivante. Je ne me souviens pas avoir vu des plans similaires par le passé, des facettes du métier aussi bien remarquées à l'écran. C'est ce qui fait toute la grandeur du long métrage, je trouve, et qui le rendra, je pense, cultissime dans quelques années. Top Gun Maverick est donc un film majeur à voir absolument, même si vous n'avez pas aimé le premier volet. C'est un concentré de technique et de vie qui fait du bien au box-office. Mais cette année, 7 autres films m'ont plus touché. Bon, vous vous inquiétez pas, j'ai fait une pause entre les deux enregistrements, vous comprenez bien, il fallait quand même que je taffe. On continue tout de suite le classement avec la 7ème position. Et en 7ème position, Les Nuits de Machad d'Ali Abbasi. C'est le film qui m'a redonné goût au cinéma. Voilà, c'est lui, comme ça, vous savez. C'est un film que j'attendais énormément vu tout le grand bruit qu'il avait fait à Cannes et pour son sujet bien ancré dans l'actualité avec la révolte des femmes en Iran. Le parallèle est peut-être fin pour vous, mais vous allez comprendre. Le film raconte l'histoire de prostituées iraniennes qui sont retrouvées assassinées à Mashhad, ville de 4 millions d'habitants au nord-est du pays. Une journaliste mène l'enquête pour retrouver l'auteur de ces crimes, mais la tâche sera rude pour que justice soit faite. Pour moi, Les Nuits de Mashhad est un film qui peut se diviser en deux portions. Une première partie où on peut assister aux macabres violences qui sont perpétrées par l'assassin, qui nous montre sa détermination, son sang-froid et son inhumanité face aux actes qu'il commet. Et en parallèle de ça, on a toute l'enquête, la traque, les murs face auxquels la journaliste fait face, et on a un moment de coupure avec cette scène de tension incroyable où la journaliste se fait passer pour une prostituée pour piéger le meurtrier et le faire arrêter. Casse-prison, mon pote. La scène est magistrale parce qu'on ressent absolument tout ce que la protagoniste vit, c'est comme si on était, genre, dans sa peau. La fin de cette scène mène à la deuxième portion, beaucoup plus assumée politiquement, qui est celle du jugement. Mais quand je parle de jugement, je ne parle pas seulement vraiment de judiciaire. Le protagoniste est entendu et ne regrette absolument pas ce qu'il a fait, il le revendique même, et toute une partie de l'opinion publique plaide en sa faveur et demande à ce qu'il soit libéré, alors que lui-même dit qu'il continuera s'il est libéré. Oui oui, ça paraît assez fou pour nous, mais oui oui. Pourquoi me direz-vous ? Eh bien, parce que pour vous faire un mini cours de géopolitique, l'Iran est un pays composé à 99% de sa population de musulmans, religion qui, comme la plupart des religions hein, d'ailleurs, hein, trouve que la prostitution c'est un péché, qu'il faut empêcher son existence. Ce monsieur a donc trouvé un moyen pour empêcher son existence, il est selon lui un guerrier venu rendre justice. Oui oui oui, c'est l'antagoniste parfait, il a sa propre lecture du Coran on va dire, et j'ai envie de lui cracher au visage plus le film avance. Mais c'est en même temps pour cette raison que c'est hyper intéressant, parce que la majeure partie de l'opinion publique souhaite sa libération, ce qui témoigne d'une mentalité totalement décalée. Je veux dire, c'est très ahurissant pour nous occidentaux de voir ça. Même la compagne du tueur va dans ce sens et dit des choses, on a vraiment envie de lui répondre, donc là frérot, ça te touche même pas en tant que femme quoi. Parce qu'au-delà de la prostitution, c'est la femme en elle-même qui est attaquée dans le film. Vous le voyez le parallèle maintenant ? C'est une femme qui se bouge le cul pour résoudre cette affaire. C'est la société patriarcale qui lui met des barrières. C'est un monde d'hommes qui décide de la condamnation et qui n'applique pas dans sa totalité la dite. C'est un vrai film qui porte la voix des femmes à travers cette journaliste qui incarne à elle seule la justice dans tout le film. Je vous laisserai regarder le film pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais ceux qui sont dans mon cas, le suspense se tient jusqu'au bout, l'issue semble prévue et inévitable jusqu'au bout, et le film vient tout de même revoir nos certitudes jusqu'au bout. Je pense que le personnage qui nous a le plus glacé le sang reste quand même le fils de l'assassin, qui boit totalement les paroles de son père et qui semble vraiment prêt à reproduire le schéma. C'est ça la touche finale du film, une note entre l'espoir d'une femme qui fait justice elle-même et désespoir d'une mentalité qui se perpétue de génération en génération et qui ne fait pas avancer la société. Et c'est pour ça que le parallèle est saisissant, parce que le film raconte ce qui se passe en Iran actuellement, c'en est une métaphore. Il faut se battre pour le droit des femmes, pour la parole des femmes, parce que sinon les mentalités bougent pas et on arrive à des catastrophes comme celle du film ou de la réalité. Pour parler de la technique, rien ne m'a vraiment marqué dans le sens où je pense que j'étais trop absorbé par l'histoire pour faire attention à la technique, mais on remarque encore une fois des paysages iraniens assez magnifiques et quelques idées de mise en scène ingénieuses. Les acteurs sont tous brillants, bref, Les Nuits de Machad est une des sensations de l'année, un film qu'il ne fallait pas louper, genre vraiment sous aucun prétexte, et moi personnellement, je lui dois beaucoup. Mais cette année, 6 autres films m'ont plus touché. En 6ème position, Asbestas, de Rodrigo Sorogoyen.
Tu crees que este sitio para mí es un capricho? No, Sean, este sitio para mí es todo. Es mi proyecto de vida.
No, yo no.
Mío y de mi mujer.
Yo no pienso eso.
¿Qué piensas?
Ojalá te hubieras despertado en otra aldea.
Encore un film qui a fait grand bruit à Cannes, et c'est pour peu dire, un film qui aurait mérité d'être primé. Sérieusement, je vois pas ce que ce film a de moins que La Palme d'Or, en revanche, je vois ce qu'il a de plus, même si j'ai beaucoup aimé Triangle of Sadness. Bon, maintenant, ça fait 2 ans qu'on se connaît, hein, donc pour la plupart, vous le savez, Denis Ménochet est un, si ce n'est, mon acteur préféré. J'aime, je pense, tous ses films, sauf Peter Van Kant, hein, on ne m'y retrouvera pas sur celui-là. Il est capable d'aller dans tous les styles, que ce soit La Bête dans Jusqu'à la Garde, ou L'Immense Fragilité dans Grâce à Dieu, bah là, il arrive à être un peu les deux d'ailleurs. Bref, voilà, la hype grimpe en moi au fil des semaines. Et bah, hype justifiée. Asbestas, c'est l'histoire d'un couple qui plaque tout et part s'installer en Espagne dans les paysages qui ont tant fait rêver Antoine dans sa jeunesse. Devenu agriculteur, une proposition est faite d'installer des éoliennes en échange d'une contrepartie financière. Quand toute la ville, rongée par la pauvreté, accepte, Antoine lui refuse de voir la beauté de son enfance gâchée par des monstres métalliques. Cette décision va entraîner un climat de plus en plus hostile avec ses voisins, mais que se passe-t-il quand les bêtes sortent de leur tanière ? Sorogoyen est l'un des réalisateurs qui monte le plus ces dernières années avec 2 films qui ont vachement été plébiscités, à savoir Que Dios nos perdone et Madre. J'avais personnellement vu aucun de ces films avant et je découvrais donc son univers avec le film. Techniquement, on n'a pas un film qui va être riche en idées de mise en scène, mais un film qui va être au plus proche de ses personnages, avec une vraie vision intimiste. On a de très beaux cadres, vu qu'on est en montagne, on traite d'agriculture, on a des images de verdure vraiment majestueuses. La nature est un 12e homme, pour reprendre l'expression footballistique. C'est filmé avec des caméras qui laissent un grain très beau, une image très douce, et ça m'a un peu rappelé L'Échine du Diable, mon film préféré de Guillermo del Toro, qui avait lui aussi ce petit grain. Le rythme du film est assez tranquille, bien que pressant. On a une sensation de malaise un peu tout le long, même si on a une montée de la tension qui va en crescendo et qui est très efficace. Tout ça pour arriver à l'événement majeur du film, qu'on voit venir, bien sûr, mais mais quand il arrive, il fait mal quand même. Et le pire, c'est que la scène coupe et on a directement fait un saut dans le temps. C'est-à-dire que le film ne nous laisse même pas le temps de respirer. À peine le chaos traversé qu'on a déjà fait une ellipse et il faut avancer. Je dirais qu'on a un film en deux parties. Dans la première partie, on a ce qu'on pourrait appeler le conflit. On est au cœur d'une bataille certaine entre le couple et ses voisins. Bataille qui au départ est plutôt puérile, mais qui tourne vite à des choses plus graves pour arriver au dramatique. Le pire, c'est qu'on cherche vraiment des solutions et on croit à certains moments qu'on en a trouvé, mais ça n'arrive jamais. La deuxième partie du film, elle constitue plutôt une enquête et comment on gère un deuil lorsqu'un corps n'est jamais retrouvé. Oui, là je spoil, je suis obligé. Comment gérer l'impossibilité de faire son deuil quand on n'a pas de preuves tangibles? Les gens ont besoin d'avoir un corps pour se dire, voilà, la personne est morte et tout, etc. Et il y a des personnes qui, quand elles n'ont pas ce corps, on est que sur une disparition, n'arrivent pas à passer cette étape-là. Et le film tente d'expliquer ça en fait. Olga a besoin de trouver des réponses pour passer à autre chose et tant qu'elle les aura pas, elle continuera obstinément. Niveau des acteurs, Ménochet est grand, Ménochet est immense même encore. On aurait pu avoir à le dire tellement c'est sous nos yeux, mais c'est évident. Il y a une vraie fragilité qui se dégage du personnage qui cependant a tout à fait la tête sur les épaules et sait ce qu'il veut. Il l'interprète avec beaucoup de sincérité. Et d'ailleurs, entendre Denis Ménochet dire qu'il veut s'éloigner du cinéma, ça me fait vraiment mal au cœur. Marina Foïs aurait peut-être aimé pouvoir être sélectionnée au César pour ce film parce qu'elle aurait très bien pu repartir avec la statuette pour une fois. Elle est déchirante dans ce rôle de veuve qui subit plus les événements qu'elle ne les vit. C'est criant dans la scène de dispute avec sa fille où cette dernière la met face au fait et elle reste dans son schéma de pensée. Elle est bouleversante et elle aussi bluffante de sincérité. Tout comme Marie Collomb d'ailleurs, dont je parlais à l'instant, qui est mitigée entre la colère de voir sa mère dans cet état, la consternation de ne pas pouvoir faire grand chose et la peur que les voisins s'en prennent à sa mère. Les acteurs espagnols Luis Zahera et Diego Anido sont terrorisants. Vraiment, trouvez-moi deux trônes plus effrayantes que ça cette année, il n'y en a pas. On sent dans leur regard que c'est le mal. C'est le mal qui peut frapper à tout moment et c'est totalement glaçant. Pour finir, le film met en perspective un problème bien actuel de notre société, celui de l'écologie. Quid de la biodiversité? Est-ce que la protection de l'environnement nécessite que des éoliennes gâchent cette dernière? C'est des questions auxquelles il n'y a pas vraiment de bonne réponse et c'est ce que le film tente brillamment d'expliquer justement. Prouesse des sentiments, Asbestas est un choc de cinéma que je regrette pas d'avoir vu en salle, sincèrement, jetez-vous dessus. Mais cette année, 5 autres films m'ont plus touché. En cinquième position, Elvis de Baz Luhrmann. Colonel, you put an end to your boy's animal behavior, or we will.
There's a lot of people saying a lot of things. Still more. But in the end, you gotta listen to yourself.
Oui, oui, bien sûr, oui, oui, tous les jours même, tout. Et encore un film que la salle de cinéma rend encore plus grandiose. Quel biopic, mais avant tout, quel film. L'attente était grande, et le choc fut total. On va encore de me reprocher de taper gratuitement sur Bohemian Rhapsody, mais c'est ouf de voir un vrai biopic ambitieux. Je veux dire qu'il y a des ambitions scénaristiques, de la mise en scène, et je mettrai pas d'adjectif après, parce que, quand on voit le comparatif, là au moins il y a de la mise en scène dans Elvis. Et surtout, de voir un biopic qui se moque de ce qu'il représente, et qui vient pas juste remplir un trou en mode « Hey, on n'a pas fait de film sur ce mec. »
Vous voyez ce mec là? Mais si, ce mec là.
Je ne connais pas bien non plus le cinéma de Baz Luhrmann avant le film. Parce qu'avant ça, j'avais simplement vu son Gatsby le Magnifique que j'avais déjà trouvé ambitieux dans ses idées de réadaptation. Mais sinon, rien vu de son travail auparavant. Je savais juste qu'il avait un cinéma bien entré des artistes, bien miroir à ampoule. Et j'aimerais commencer par dire que Baz Luhrmann est un mec qui bosse ses films à fond. Ils sont pensés bien sûr pour la salle de cinéma, mais ils sont aussi pensés pour que le spectateur ne soit jamais lassé de ce qu'il regarde. Pour qu'il soit toujours pris dans le jeu de la première à la dernière seconde. Elvis, c'est 2h40 quand même, donc faut se les encaisser. C'est des montagnes russes d'émotions, c'est des scènes fortes et pourtant, il n'y a pas de moment moins bien géré que d'autres. On est sur une véritable maestria et c'est quelque chose que j'avais déjà ressenti devant Gatsby. On va à 100 à l'heure, mais on s'égare jamais. C'est très satisfaisant. J'aime énormément l'esprit ludique aussi qu'il a de jongler entre les caméras, entre les pellicules pour rendre le film à son époque. Il a une conceptualité visuelle que je trouve démentielle, vraiment. C'est pas quelque chose d'évident, hein, ça a l'air, mais non. Parce qu'il faut réussir à faire matcher les différents rushs et là, ça fonctionne dans un mélange qui égaye la rétine. J'aime énormément ce que raconte le film, qui bien évidemment nous montre l'histoire de l'une des plus grandes, si ce n'est la plus grande gloire de la musique rock aux États-Unis et dans le monde un peu. Donc forcément qu'on nous la glorifie, qu'on nous montre tout ce qu'elle a accompli, les obsessions qu'elle a suscitées, les mouvements de foule, les concerts grandioses, etc. Mais on cherche pas non plus à nous raconter que ça. On fait face à beaucoup de coups durs dans le film, avec l'importance par exemple de la perte de sa mère, le moment où il est contraint de partir faire son service militaire en Europe, ou encore l'échec complet de sa carrière dans le cinéma. Le film est pas tendre avec la figure d'Elvis et on assiste, on peut le dire complètement, à la déchéance d'un homme. J'aime énormément le fait que le film casse un mythe qui est celui de la figure très américaine du self-made man. Pour les non-anglophones, comment dire. En gros, c'est les mecs qui se font tout seuls à l'aide de leur grosse paire de couilles. Voilà. On comprend clairement que son talent y est pour quelque chose, parce que oui, sans sa voix, sans son énergie et sans son physique, Elvis ne serait rien. Mais on comprend aussi qu'il aurait jamais eu toutes les opportunités qu'il a eues sans toutes les roublardises de son agent. Et surtout, le film explique bien que sa musique sort pas exclusivement de son cerveau, tout comme ses pas de danse. Tout ça lui vient de ses diverses influences, et notamment celle de la musique afro-américaine qui l'a bercé pendant une bonne partie de son enfance. Pour passer du coq à l'âne, je trouve ça hyper intéressant de prendre un acteur supra-plébiscité et adulé comme Tom Hanks pour jouer l'antagoniste de son film. Il y a une espèce de sympathie et de bonhomie qui se dégage de l'agent alors qu'il fait crasse sur crasse à sa pelouse d'or, c'est un truc incroyable. On est tiraillé, c'est brillant. Tom Hanks, qui en plus joue très bien son rôle, hein, est très convaincant. Qui aurait cru, mais qui aurait cru une seule seconde, qu'Austin Butler serait à la hauteur. Le choix a pu faire grincer des dents parce que le gars avait quasiment fait que des productions Disney Channel jusqu'ici, donc il y avait de quoi s'inquiéter. Et il est venu nous clouer le bec de la plus belle des manières. Il dégage un vrai charisme, une énergie que peu d'acteurs, je pense, auraient pu avoir. Il est venu justifier son choix avec de vraies scènes qui sont personnellement venues me déchirer le cœur. Je pense à la scène du piano à la fin, par exemple. Les poils, sincèrement, les poils. Il a déjà raflé le Golden Globe du meilleur acteur dans un film dramatique, et faites gaffe parce que la route de l'Oscar, bah, il est dessus et il est bien dessus. Comment omettre de parler de la photo et de la lumière dans le film, éléments centraux de l'esthétique Elvis. C'est ça que je disais aussi quand je disais de manière sarcastique bien miroir à ampoule. Baz Luhrmann, c'est un cinéma du tout en grand, en fait. Le film, pour moi, après, a un défaut majeur, c'est de faire passer un peu sous le tapis le fait qu'Elvis, bah, c'était un prédateur, hein, c'est encore et encore, c'est le mot gentil. C'est abordé, je veux dire, il y a le sujet sur la table, mais faut pas trop en parler non plus, quoi. Mais sinon, Elvis, c'est un cocktail bien explosif d'interprétation, mise en scène et de rock. Putain, quel bon, quoi, j'ai encore du mal à me remettre. Mais cette année, 4 autres films m'ont plus touché. En 4ème position, The Batman de Matt Reeves.
I don't care what happens to me.
It's only gonna get worse for you.
Whoa, take it easy, sweetheart. Hear everything they say, ain't you?
Maybe we're not so different. Who are you under there?
I'm vengeance.
Ah, celui-là, on m'a bien fait chier avec. Et une personne se reconnaîtra un peu plus dans ce que je dis là. Faut croire que mes grosses attentes de l'année ne m'ont réellement pas déçu, parce que oui, avec tous les visuels, l'annonce de Robert Pattinson dans le rôle de Bruce Wayne, le fait que ce soit tout simplement un film Batman, oui, il y avait beaucoup de choses pour m'attirer dans ce film. Me voici donc en salle, et me voici donc devant un spectacle que j'aurais voulu rater pour rien au monde. Ça a longtemps été mon film préféré cette année, je pense. Et puis le temps passe, des films restent plus que d'autres, des films viennent taper plus là où ça fait mal dans mon cœur, et d'autres films arrivent entre temps aussi, hein, tout simplement. Mais objectivement, c'est sûrement le meilleur film qui m'était donné de voir cette année. Et je vais redire cette phrase qui a tant énervé, mais c'est sûrement le meilleur film de super-héros depuis The Dark Knight, n'en déplaise au MCU. L'histoire, c'est celle de tous les Batman, Bruce Wayne habite à Gotham City et revêt la cape de Batman, un super-héros aux allures de chauve-souris, à chaque fois qu'une menace plane sur la ville. Dans ce film, c'est le personnage de Riddler qui vient semer le chaos en assassinant des personnalités publiques et ayant des ambitions bien plus désastreuses que ça. Pour le coup, cette fois, j'étais pas mal renseigné sur la carrière de Matt Reeves parce que j'avais vu la moitié de ses films avant ça. J'avais vu son Cloverfield qui, je trouve, n'est pas le meilleur de la saga, mais a de très bonnes idées visuelles, surtout à une époque d'overdose du found footage. Et j'avais aussi vu les deux volets de La Planète des Singes, nouvelle gêne qu'il avait réalisé, qui sont les deux plus intéressants sur les trois, on va dire. C'était des très bons blockbusters qui faisaient le taf et qui avaient une profondeur de récit bien plus élaborée que des singes et des humains qui se foutent sur la gueule. Bref. Donc le voir débarquer dans un univers comme celui du Chevalier Noir, c'était pas tellement une surprise, mais toutefois une curiosité risquée. Et tout d'abord, j'aimerais beaucoup commencer en disant que j'aime beaucoup l'identité visuelle et sonore du film. On a une photo très dark, un peu cracra par moment, il pleut tout le temps, la lumière est toujours bien gérée, il y a un gros travail sur le son, dans le sens où il y a une vraie peur par le bruit qui s'instaure. La musique a vraiment des thèmes marquants, notamment le principal, et pour rester dans le même thème, le choix de Something in the Way de Nirvana vient totalement matcher avec le film. Le rythme, lui, est effréné, presque étouffant par moments, et quand t'as une scène qui est plus neutre que la précédente, bah on vient directement de saisir après. En fait. On va parler aussi du design de la Batmobile, bordel, quel bonheur. C'est un vrai bolide de film d'action comme on aime, et on a un vrai kiff à la Top Gear à chaque scène où elle apparaît. J'aime les complexités que le film propose en termes d'écriture et de mise en scène. Pour le deuxième point, on a des idées brillantes qui fonctionnent du tonnerre. Je pense à la scène d'intro avec l'entrée dans le champ de Riddler, la scène des digues, mon dieu, la scène éclairée uniquement par les impacts de balles, comment ça claque sa mère. Il y a de très grandes scènes de tension dans le film, du grand cinéma. Je pense à la scène dans l'église aussi, la scène de course-poursuite avec le pingouin qui est très Mad Maxienne. Le film en met plein la vue. Et pour rebondir sur Mad Max, on sent que Matt Reeves a des influences, mais on sent aussi qu'il les a bien digérées. Faut commencer par dire qu'il y a beaucoup de tableaux dans le film, et si la scène d'arrestation de Riddler vous fait pas penser à Nighthawks d'Edward Hopper, bah je peux rien faire pour vous malheureusement. On sent surtout que Matt Reeves adore le cinéma de David Fincher, hein. Il le montre bien. Je pense à Seven, bien sûr, mais surtout à Zodiac, parce que oui, Riddler prend tous ses traits au Zodiac Killer de Fincher. On est entre le clin d'œil et la citation, c'est subtil et ça ravit toujours un cinéphile. Pour revenir sur les procédés de cinéma employés par le film, on retrouve un bon nombre de fusils de Chekhov hyper habiles pendant le film, comme par exemple les ongles de Catwoman. Voilà, c'est le premier exemple qui vient. C'est un procédé qui marche à la finesse de son utilisation, et là, c'est fin. Voilà, on peut le lire. Mais dans l'écriture, il y a surtout des postulats que je trouve hyper intéressants dans un film de super-héros comme Batman. On a déjà une remise en cause de la structure familiale de Bruce Wayne, hein, alors qu'on glorifie toujours sa famille dans tous les autres films, là, notamment son père, on laisse penser qu'il trempait dans des affaires pas très nettes. Mais surtout, on a une remise en question du rôle de Batman lui-même posé par le Riddler. Est-ce que toutes ses actions n'entraînent pas de la révolte? Est-ce qu'en faisant le bien, finalement, il provoque pas le mal? On essaye vraiment de faire réfléchir le spectateur, de revoir ses notions, et moi, j'aime bien quand ça me bouscule. Niveau performance d'acteur, est-ce que j'ai vraiment besoin de dire que Robert Pattinson est un très bon Batman? Il incarne une figure jeune du Chevalier Noir et Dark qui change mais qui marche. On y croit à ce Batman. Et par exemple, je le trouve beaucoup plus convaincant que Christian Bale, alors que j'adore les Batman avec Christian Bale. Paul Dano livre une masterclass dans la peau de Riddler, à la fois effrayant et consternant d'inhumanité. Il montre un peu plus que c'est un grand acteur et j'ai hâte de le voir dans The Fabelmans. Colin Farrell grimé en pingouin, je l'ai vraiment pas reconnu, mais c'est pareil, c'est très bon. Et Jeffrey Wright aussi, par exemple, bah, c'est vraiment super niveau acting. Et que dire de Zoé Kravitz qui est hypnotisante en Catwoman, sincèrement. Elle a un côté hyper désinvolte que je kiffe, sincèrement. Et le duo avec Robert Pattinson fonctionne à merveille, quoi. Il y a aussi une vraie importance des réseaux sociaux dans le film que je tiens à souligner sous l'angle de Riddler. Parce qu'on assiste à une vraie diffusion de la haine par des lives et des publications macabres. On observe aussi la facilité à monter une armée sur internet, à rassembler des fidèles, si je puis dire. En gros, oui, le film évoque aussi les dérives sectaires sur le net. Et c'est un point de vue super intéressant. Un détail me dérange cependant avec The Batman, c'est qu'il y a quelques facilités scénaristiques, notamment la relation Batman-police, hein, parce que bon, ça va bien et ça va mal d'un coup, sans qu'il y ait de contexte, je trouve ça des fois un peu dommage. Après, c'est vraiment pour chipoter, hein, parce que ce film est exceptionnel. C'est un besoin que je ne pensais pas avoir qui vient de se combler, vraiment. Je suis ressorti du film heureux parce que j'avais peur, et j'avais raison d'avoir peur, et c'est ce qui fait que j'ai encore plus aimé le film, je pense. Mais cette année, trois autres films m'ont plus touché. En troisième position, Nope, de Jordan Peele.
What's a bad miracle? They got a word for that.
Encore un film avec une grande hype dans mon esprit, mais que j'appréhendais tout de même un peu. Nope est le film international que j'ai préféré cette année et peut-être l'une des meilleures séances de cinéma auxquelles j'ai pu assister dans ma vie. Jordan Peele est l'un des réalisateurs les plus prometteurs de ces dernières années sur la scène internationale, avec deux premiers longs métrages d'une qualité immense. Get Out, en premier, est une critique satirique, si je puis dire, d'une Amérique post-esclavagiste et post-ségrégationniste qui en apportant toujours autant les codes. C'est un premier film dingue qui marque la première collaboration entre le réalisateur et Daniel Kaluuya. Vient ensuite son deuxième film, Us, qui a pour le moins divisé. C'était personnellement l'une de mes plus grosses déceptions l'année de sa sortie, parce que quand on me vante les inspirations dans lesquelles il puise et le désordre qu'il incarne au final, bah y avait de quoi être déçu en effet. Donc, comprenez un peu que j'étais partagé entre vraie envie de voir le film et grosse appréhension de savoir si j'allais renouer avec le cinéma de Peele. Nous sommes donc propulsés en Californie où Otis Haywood, sa sœur et son père habitent un espèce de ranch en plein milieu du désert où ils y élèvent des animaux qui vont servir à des tournages de films. Un jour, le père décède à cause d'un objet qui est tombé du ciel sur lui. Ses enfants décident donc d'installer des caméras pour essayer de comprendre ce qui s'est passé et ce qu'ils vont découvrir est bien plus obscur que tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Le film fait énormément réfléchir sur ce qu'est un peu la société de production, où l'exploitation et le tout pour l'argent sont rois, quitte à mettre sa vie et celle des gens qui paient pour y assister en danger. Ici, ça s'exprime par deux événements majeurs liés par un personnage, celui de Jupe. Dans son enfance, il est présent sur un plateau télé quand un chimpanzé massacre le public et les personnes sur scène. Le chimpanzé s'énerve d'un coup quand un ballon explose, en fait, relevant d'un manque de sécurité flagrant. Le deuxième événement, c'est le jeune homme qui est devenu gérant d'un parc d'attractions. Il n'a jamais oublié son traumatisme et veut se servir de l'OVNI comme d'une bête de foire pour son nouveau spectacle. Très grosse erreur qui va lui coûter beaucoup. On peut aussi parler du journaliste qui sort sort de nulle part en motocross pour venir filmer ses petites images. Belle représentation des médias fast-food actuels qui créent du contenu pour attirer leur public sur des vidéos inutiles de quelques secondes. Le film fait aussi, comme dans tous les films de Jordan Peele, hein, une critique de la société américaine, du racisme systémique qui en découle. C'est jamais maladroit et toujours très bien écrit. On a des grosses performances d'acteurs et en premier lieu Daniel Kaluuya qui revient devant la caméra de Jordan Peele et qui fait preuve de beaucoup d'assurance dans son rôle de tracker d'alien. Kiki Palmer est elle aussi brillante dans les traits d'une jeune femme qui fonce un peu trop tête baissée dans tout ce qui lui fait face. Grand plaisir de revoir Steven Yeun, un de mes acteurs préférés dans The Walking Dead et qui m'avait pas fait grande impression dans l'oubliable Minari. Il est très touchant, un homme qui vit à travers les traumatismes de son enfance et qui en même temps cherche à être le plus gros maniaque du coin. Les autres petits rôles font vraiment le taf quoi. Le film crie son amour pour le cinéma. Tout d'abord, la famille est descendante du jockey d'Animal Locomotion, l'une des premières images animées de l'histoire. Il puise ses inspirations dans plusieurs films de plusieurs genres cinématographiques, comme le western, bien sûr, le film d'horreur psychologique ou encore la science-fiction, bien sûr aussi. D'ailleurs, c'est des mélanges de genres qu'on pouvait déjà retrouver dans ces versions de la quatrième dimension. Il y a aussi la présence d'un réalisateur de films qui vient observer tout ça et qui est aussi là pour appuyer la critique de la société de spectacle. J'adore le design de Jean Jacket, l'extraterrestre du film. Il a d'abord la forme d'un nuage, qui a la forme la plus simple du monde, j'ai envie de vous dire, pour devenir un spectre à la forme beaucoup plus indiscernable et mouvante. On dirait un drap, même pour vous dire, donc un truc pas très épais, et pourtant il est hyper pesant, il est efficace. J'aime aussi le concept très ange pleureur qu'ils lui ont confié, c'est vraiment cool. Et comment parler du film sans évoquer ces magnifiques paysages de Californie? Les cadres et les décors sont encore une fois une source de satisfaction maximale. Nope est un film où on sent que Jordan Peele se ressente sur l'essentiel. Il sait ce qu'il veut et ce qu'il veut pas, il sait comment rendre les hommages qu'il souhaite, il sait quelle mise en scène est la plus adaptée à son propos, et avec ses certitudes, je peux que attendre son prochain film avec impatience. Mais cette année, deux autres films m'ont plus touché. En deuxième position, Vortex, de Gaspard Noé.
La vie est un rêve, non?
Oui, la vie est un rêve dans un rêve.
On est bien peu de choses, et mon ami la rose me l'a dit ce matin.
Pourquoi tu es parti? Où est-ce que tu as pu passer? Je te cherchais partout, par tous les quartiers.
Au rayon du soleil, me suis fermé la nuit.
Emmène-moi à la maison. Emmène-moi à la maison.
On est à la maison, maman.
Non.
T'as peur ?
Je vais pas revenir très longuement sur celui-là parce que j'ai déjà fait un épisode du podcast sur le film. En revanche, je me suis dit que ça pouvait être très intéressant de parler de ce que le film laisse. Le film est resté très longtemps dans mon esprit, même bien après la publication du podcast. Tout d'abord, je continue de penser que c'est l'œuvre la plus singulière de la filmographie de Gaspard Noé, et je pense que la majeure partie des personnes qui ont vu, apprécié ou non ces films, pourront dire la même chose. Personnellement, je continue à penser aussi que son film somme, c'était Climax, et que depuis ça, juste, il s'éclate dans ce qu'il fait. Il a envie de raconter des choses différentes, aborder des thèmes qu'il a pas encore développés dans son cinéma auparavant, et je trouve ça vachement cool. Le film a laissé dans mon esprit à la fois des ondes positives et à la fois des ondes négatives. Positives parce qu'en termes de cinéma, j'ai assisté à une vraie leçon technique et émotionnelle, hein. La transmission des sentiments des protagonistes aux spectateurs dans ce film est totale, et il faut dire que les interprétations de Dario Argento et Françoise Lebrun sont déchirantes. Je me souviens plus exactement de ce que j'avais dit à l'époque, mais je pense que j'ai dû revenir sur Françoise Lebrun, qui pour moi mérite totalement d'être nommée au César cette année, même si on sait que ça ne sera pas le cas vu que c'est un film de Gaspard Noé, lol. Elle me fend le cœur, vraiment. Y a pas d'autre mot, elle me fend le cœur. Et le visage de cette femme souffrante reste vraiment ancré dans ma mémoire encore aujourd'hui. Techniquement parlant, cette idée de double écran, c'est hyper intelligent. L'idée d'avoir les points de vue des deux protagonistes en même temps, leurs deux ressentis au même moment, plutôt qu'en différé, sans parler que le principe va servir la mise en scène dans la suite du film, de la manière la plus douce possible. Et j'ai parlé aussi d'ondes négatives, si vous vous rappelez bien, et c'est dans le sens où le film a une ambiance assez chaotique. Une sensation de désastre qui se transmet aussi et qui laisse quelque chose de vraiment néfaste dans l'esprit. Et c'est pour ça aussi que je disais que malgré que le film soit immense, j'ai pas envie de le revoir tout de suite. Le film est vraiment une épreuve dont il faut se remettre. Et là, 8 mois après quasiment, j'ai toujours pas envie de le revoir, quoi. Mon ami La Rose, on en parle peut-être pas assez, mais c'est une chanson incroyable, d'une extrême volupté qui reste en tête. J'ai découvert la musique avec le film, donc je suis obligé de dire qu'à chaque fois que je l'entends, bah je la relis au film. Mais sincèrement, si je l'avais connu d'avant, ça aurait été le cas également parce que les deux collent trop, quoi. Y a un vrai match artistique. C'est l'une des musiques que j'ai le plus écoutée cette année, dire l'impact que ça a eu sur moi. Je pense très honnêtement que c'est la plus belle séance de cinéma que j'ai eue cette année, mais aussi la plus rude. Et je pense que si je l'avais pas vécu en salle, l'expérience n'aurait pas été la même. Ça a une importance dans l'ambiance sonore, au niveau du tempo du film, parce que c'est si lent que je pense que j'aurais pu décrocher si j'avais pas été en salle. Voyez du cinéma en salle, voyez des films de Gaspard Noé, voyez des trucs qui vous font peur au premier abord. On ne fait que se répéter, mais le cinéma français, c'est le plus diversifié dans le monde, avec des personnes bourrées de talent. Vortex n'est peut-être pas un film que vous allez comprendre dans sa totalité, c'est peut-être pas un film que vous allez apprécier, mais c'est un film qui reste. Il se cramponne à vous et il vous lâche pas. Mais cette année, un film a su déceler l'origine de mon amour pour le 7ème art. Un film a montré la voie dans cette grande année. Un film figure en haut du top. Un film a gâché certaines de mes nuits de sommeil. Un film a montré la bestialité sous son meilleur angle. Un film m'a mis dans tous mes états, tel Elvis Presley à sa grande époque, j'ai envie de vous dire. Un film a mis en lumière des justiciers. Un film a dit non à tous ceux qui enterrent le cinéma français. Un film m'a aspiré tel un vortex. Et ce film, le voici. En première position, La nuit du 12 de Dominique Moll.
Vous faisiez quoi dans la nuit du 12 octobre ?
Est-ce que Clara avait des ennuis ?
Elle tombait facilement amoureuse.
Elle voulait toujours que je sorte le grand jeu, elle faisait la princesse.
Elle aimait bien mon côté animal. On baisait fort.
Tu sais de quoi elle est morte, Clara ?
Elle a été brûlée vive.
Clara avait 21 ans. C'est pas parce que les médias s'y sont pas intéressés qu'il faut pas s'en occuper.
À la PJ, on raconte que chaque enquêteur tombe un jour ou l'autre sur un crime qui le hante. Il se met à vous tourner dans la tête jusqu'à l'obsession.
Arrête, ça vous bouffe de l'intérieur.
Ça vous dévore.
Si tous les films de mon top 10 étaient jusqu'à présent plus ou moins des immenses hypes que j'avais eu sur les films de cette année, le film qui se classe en première position en 2022 est une totale surprise. Un film que j'attendais un peu, mais pas non plus des masses pour être honnête. Il est venu me tarter la tronche bien comme il faut et m'a gâché quelques nuits de sommeil à la suite du visionnage. Parce qu'au-delà de l'apprécier, c'est l'une des premières fois qu'un film m'a obsédé. Obsédé dans quel sens, vous allez me dire ? Eh ben laissez-moi vous expliquer. La nuit du 12 nous raconte un des cold cases non résolus de la PJ de Grenoble. Clara part de chez sa meilleure amie après une soirée et se fait brûler vive par une personne cagoulée. Johan, fraîchement nommé capitaine, prend en charge l'affaire accompagné de sa brigade, dont son bras droit Marceau. Ils vont remonter l'histoire des relations de Clara pour tenter d'élucider le mystère de son horrible assassinat, mais quand la réponse ne vient pas, le crime vous hante. Par où commencer ? Il y a tellement de choses à dire, vraiment. J'ai écrit plus de 3 pages sur le truc, alors préparez-vous. Je vais faire comme d'hab, je pense, et je vais parler du réalisateur. Dominique Moll s'est fait connaître avec Harry, un ami qui vous veut du bien. Drame auréolé de 4 Césars, dont meilleure réalisation. On peut ensuite parler de sa production Canal+, Tunnel, très plébiscité à l'époque de sa sortie, mais qui a assez rapidement intégré l'inconscient collectif. Je n'ai vu ni le film ni la série personnellement, or j'avais découvert son cinéma à travers son dernier film Seules les bêtes, porté par Denis Ménochet, encore lui, et leur calami, encore elle. Un film d'une puissance assez folle et qui traite de plein de thématiques actuelles avec beaucoup de bienveillance et de qualité. Si vous ne l'avez pas vu, jetez-vous dessus, c'est incroyable. Mais c'était un peu le seul truc que j'avais vu de lui, et pour moi c'était pas un réalisateur que j'attendais au tournant comme ça pouvait être le cas avec Gaspard Noé ou encore Jordan Peele. La scène d'exposition, pas les toutes premières minutes, mais celle du meurtre de Clara, est d'une brutalité qui m'a cloué à mon siège. C'est pas quelque chose qu'on demande à voir, jamais. Mais la scène est d'une puissance visuelle avec l'embrasement, la course, la violence en quelques secondes en fait. Des frissons d'angoisse, je vous jure. Le film imbrique tout de suite ce qui sera l'ambiance du film, pesante, lourde. L'enquête peut donc démarrer et on comprend très rapidement le propos du film. Que cela soit dans les interrogatoires des conquêtes de Clara ou dans les échanges entre les policiers de la brigade. On évolue dans un monde de macho, où le peu de mecs qui tentent d'apporter un point de vue qui n'est pas masculiniste se fait railler par les collègues. Je pense notamment à la scène de Boris au restaurant qui annonce qu'il va se marier. Oui, on est encore sur du système patriarcal qui déconne, et c'est un film qui est profondément féministe, contrairement à ce que laisse sous-entendre une polémique survenue peu après la sortie du film en salle. Oui, pourquoi c'est les noms des acteurs sur l'affiche alors qu'on met la bimbo en gros sur l'affiche ? Débile, je vous jure. Et beaucoup de phrases du film sont évocatrices à ce niveau. Je pense à cette phrase de Bully Lanners au tout début, qui dit « Ce sont pas toujours les femmes qui brûlent, mais c'est toujours les hommes qui mettent le feu. » Je pense à celle de Pauline Sériès, « Elle s'est fait tuer parce que c'est une fille. » Je pense à celle de Bastien Bouillon, « Ce sont tous les hommes qui ont tué Clara. » Il y a quelque chose qui cloche entre les hommes et les femmes. Je pense à celle de Mouna Swalem qui dit « Vous trouvez ça normal que ce soit majoritairement les hommes qui commettent les crimes et que ce soit majoritairement les hommes qui les jugent ?» Parce que oui, je vais faire un petit aparté dans mon argumentaire, mais c'est les meilleurs dialogues que j'ai pu entendre cette année. Et de loin, on se dit les choses but en blanc sans passer par quatre chemins et parfois, ouais, bah ça fait du bien de les entendre. Et je peux continuer longtemps à vous trouver des exemples de mise en scène qui appuient ce que je dis, comme par exemple le fait de pas laisser la parole aux femmes, qui est illustré par le personnage de Camille Rutherford, Nathalie, qui défend bec et ongle son copain alors qu'il la bat, juste parce qu'elle a peur et qu'elle est sous emprise prise et qui ne lui laisse pas le choix. C'est un cri du cœur pour dire, les gars, venez, on révolutionne le système parce que là, il y a vraiment quelque chose qui dysfonctionne, quoi. Ça va pas. Ce que j'aime énormément avec le film, c'est qu'il se joue de nous aussi. Je saurais pas comment expliquer ce que j'appellerais un peu une torture, mais on nous explique dès les premières secondes que l'affaire n'a jamais été résolue. Et pourtant, je vous jure que c'est vrai, ça paraît idiot ce que je dis, mais je vous jure que c'est vrai. On croit sans cesse dans le film qu'on va le trouver. Et que ça y est, on le tient. C'est hyper fort, je trouve, de réussir à nous faire croire à des choses alors qu'on nous a dit dès le départ qu'elles n'arriveront pas. Et forcément que ça crée de la frustration. Mais est-ce que ça crée pas aussi de l'empathie? Car oui, la force du film, c'est créer une empathie complète entre le spectateur et les enquêteurs. On les voit souffrir, ces personnages, et surtout Johan, le capitaine. Il a cette phrase face à la juge que je trouve incroyable et qui résume, je pense, tout le film, où il raconte que oui, ils ont peut-être interrogé le meurtrier, mais que, au final, ça pourrait être n'importe lequel. Ce qui, je trouve, est une vérité implacable sur le récit. Il y a vraiment pas une seule des têtes de cons qu'on va défiler devant nous qui pourrait être disculpé. On peut pas s'empêcher de se dire que c'est l'un d'eux, mais aucun ne vaut mieux que l'autre au final. Et ce point de vue, il est encore admirablement mis en scène lors d'un passage où Johan est dans son lit, tourmenté par les interrogatoires des hommes, et que leurs personnages viennent parfaitement se superposer sur le sien. On a vraiment les têtes donc de chaque mec interrogé qui se superposent sur la tête de Bastien Bouillon, et ça fonctionne vraiment très bien. C'est encore une fois pour dire, ces hommes se ressemblent tous, ça pourrait être n'importe qui, même le capitaine de la police, c'est d'une intelligence assez folle. J'aime énormément que le rôle de la meilleure amie de Clara soit celui du point de bascule du film. C'est par elle que tout passe, que se font quasi tous les liens, que toutes les idées du film s'éveillent. J'aime comment l'annonce du décès et le deuil sont filmés. On cherche pas à nous tirer l'alarme, on veut juste être froid, faire face. Et c'est cette vérité en fait qui entraîne les larmes. La mère de Clara, elle est déchirante, vraiment c'est cri strident, mais c'est pareil, ça me fend le cœur quoi. À tous les moments où on la voit dans le film, elle est vraiment déchirante et des fois elle a même pas besoin de parler pour que ce soit le cas. J'aime comment le film parle aussi des problèmes d'administration dans la police, comment ils doivent lutter pour avoir des résultats alors qu'on réduit leurs moyens. Je vous jure que la scène qui m'a le plus fait chialer devant le film, je pense, c'est quand la nouvelle juge annonce au capitaine qu'elle lui donne des moyens pour reprendre l'affaire. On voit un personnage qui souffre depuis le début du film avoir une bonne nouvelle, un truc qui va dans son sens, et c'est un soulagement, putain. Je m'attendais pas à pleurer là-dessus, mais vraiment, waouh, c'est hyper bien montré. J'aime le personnage de Marceau qui est profondément humain, qui traverse des événements dégueulasses, qui les traverse avec beaucoup d'humilité, et qui finit tout de même par céder à la colère petit à petit. C'est peut-être le personnage le plus humain du film. J'ai juste envie de lui faire un câlin et lui dire genre, mec, je suis là pour toi, je suis avec toi si t'as envie, quoi. C'est touchant le calque qu'il fait aussi sur Nathalie, qui porte le même prénom que sa femme. Il a profondément envie de l'aider, mais à l'image de sa vie, bah, il se bat contre le fait d'être impuissant face à la situation, quoi. N'y voyez aucun mauvais jeu de mots, d'ailleurs. J'aime encore une fois aussi, je le répète, ces grandes scènes de dialogue dans le film, que ce soit entre Johan et Nini ou encore entre Johan et la juge. Plusieurs scènes similaires m'avaient marqué, parce qu'en sortant de la salle, je comprenais pas exactement leur utilité, c'est celles au vélodrome, qui reviennent peut-être 3-4 fois dans le film. Je me demandais ce que ça pouvait signifier, et en fait, plus tu réfléchis, plus tu captes des trucs, et tu finis par comprendre, quoi. Et ça passe encore une fois par la mise en scène. La première fois, en fait, on le voit apaisé, avec une musique douce, faire tranquillement du vélo, quoi. Et plus le temps passe, plus on voit son visage marqué, la musique devient de plus en plus erratique. Donc oui, je pense que c'est une métaphore un peu de sa santé mentale qui se dégrade au fil que l'affaire le bouffe. Et le vélodrome représente bien cette affaire qui justement tourne en rond sans qu'il y ait jamais de dénouement, qu'il y ait jamais de porte de sortie. Il est venu le temps de parler de la technique. Je crois que j'ai assez parlé d'écriture et de mise en scène là. Et on est en plein cœur de l'Isère et on a donc des paysages montagnards à couper le souffle. Je pense notamment au dernier plan de Bully Niners où concrètement c'est une peinture. Vraiment, c'est trop magnifique. Beaucoup de scènes du film se passent la nuit et ça me permet de dire que la lumière est également magnifique. Oui, désolé, mais j'ai que ce mot là à la bouche. Vraiment magnifique. La BO m'avait pas tant marqué que ça de prime abord, mais au revisionnage, c'est venu me claquer. Le morceau de 36 secondes qui s'appelle Corps en feu, notamment, il trotte dans la tête et il met mais super mal. Elle est peut-être pas très complexe, cette BO, mais elle est super efficace. Parlons maintenant des comédiens, ils sont tous phénoménaux. Voilà, on va se poser là. À commencer bien sûr par l'élément central, Bastien Bouillon. Il livre une performance incroyable que bon nombre ont critiqué dû à sa diction très monotone et son visage froid, sans émotion. Mais en même temps, je trouve que c'est exactement comme ça qu'il fallait que ce soit joué. Surtout pour laisser ses émotions parler dans la suite du film. La scène où il embrouille Bully Lanners dans la voiture, waouh, ça secoue vraiment quoi. Parlons aussi de Bully Lanners d'ailleurs, qui est tout bonnement géant. C'est un grand monsieur, un monstre sacré, tout ce que vous voulez. C'est honnêtement son meilleur rôle. Plein d'humanité, d'humour, de dramatique. Il joue tout dans ce film, et avec une justesse implacable. Tous les rôles secondaires marchent. J'ai déjà parlé de Nini, de la mère, mais aussi tous les collègues de la PJ qui sont formidables. Tous les mecs interrogés jouent bien. On croit à chacune de leurs personnalités. Et énorme coup de projecteur, surtout à Pierre Lottin qui joue Caron, et qui montre qu'il est pas bon qu'à jouer que dans les tuches, quoi. Non, il est formidable, il a une palette de fou, ce mec. La Nuit du 12, c'est aussi un grand film de comédien. Pour conclure, j'aimerais pas dire que c'est un film que je trouve brillant dans tous les domaines. Et c'est surtout un film qui m'a eu. Il est venu me prendre au sentiment. Ça me terrifie de repenser à ce qui se passe tout en me disant que c'est inspiré de faits réels. Alors bien sûr que c'est romancé, mais les faits ils sont là, ils sont atroces. La phrase d'accroche du film c'est « il y a des crimes qui vous hantent », mais je vous jure qu'il y a aussi des films qui vous hantent et celui-là en est un. On a un total parallèle avec ce que ressentent les policiers sur ce genre d'enquête. On fait face à la cruauté de l'humain, à leur visage marqué, aux multiples rebondissements, à une affaire de plus en plus complexe et encore une fois, on rentre en empathie complète. J'aimerais finir en disant que c'est peut-être pas le meilleur film de l'année, mais le film qui va le plus au bout de ses envies et qui a le propos le plus abouti et le mieux construit, ça c'est une certitude. Ouf, bon, maintenant que j'ai essuyé mes larmes, je peux me lancer et vous remercier d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. Il m'a demandé énormément de travail, vous vous en doutez, alors n'hésitez pas à parler du podcast autour de vous. Pour la visibilité, ça fait toujours plaisir, à partager l'épisode dans vos stories, sur Twitter, bon, sur Snapchat, on fait toujours la vanne tous les ans, mais bon, voilà, faites comme vous voulez. Mais voilà, genre, parlez-en autour de vous, diffusez ça un max sur les réseaux sociaux, ça fait énormément plaisir. Je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez toujours également vous abonner à mes réseaux sociaux Instagram et Twitter, donc @tfcedl. LM, LFF, c'est les initiales de toute façon c'est de la merde les films français, voilà vous connaissez maintenant. J'espère qu'on va faire grimper la communauté parce que bah j'adore parler de cinéma avec vous. Merci à vous encore une fois pour votre soutien malgré mon irrégularité constante. Ouais ça a du sens ce que je suis en train de vous dire. La bise à 2022 et que 2023 nous fasse kiffer et me fasse faire un épisode de 5 heures l'année prochaine, bon dieu j'ai pas hâte. Le cinéma est une fête et j'ai pas de fin à cette phrase. Le cinéma est une fête, point.